Bonjour à tous, bienvenue pour ce conseil municipal du samedi 24 décembre 2016. Je vais commencer comme d'habitude par l'appel. Monsieur Olivier Bonduel, pouvoir à monsieur Jean-Yves de Ripper. Madame Marie-France Martin Bagard. Monsieur Marc Lerouzic. D'accord. D'accord. Pendant votre absence. Madame Chris Lamandé. Monsieur Jean-Yves de Ripper, Madame Janine Le Golvan, Monsieur Charles Bietri, Madame Marie-Vonne Belleuil, Monsieur Philippe Audot, Madame Catherine Isoard, Monsieur Patrick Lotodé, Madame Christine Desjardins, Monsieur Michel Durand, Madame Morgane Petit absente, Monsieur Gérard Marcalvert absent, pouvoir à Monsieur Michel Durand, Madame Karine Le Déveat, Madame Françoise Le Pennec, Monsieur Hervé Le Donnant, Madame Monique Thomas, absente, pouvoir à Monsieur Charles Bietri, Monsieur Jean-Luc Servet, Madame Nadine Rouet, Monsieur Pascal Lejean, Madame Armelle Moreau, Monsieur Loïc Coudois, Madame Sylvie Robineau, Monsieur Paul Chapelle, absent, pouvoir à Monsieur Olivier Lepic et Olivier Monsieur présent, évidemment. Nous avons donc le quorum et nous pouvons délibérer. On a besoin d'une secrétaire de séance. Madame Le Pennec, tiens, comme vous êtes là. Nouvelle conseillère municipale et que vous n'avez jamais occupé cette fonction, acceptez-vous d'être la secrétaire de séance? Merci beaucoup, Madame Le Pennec. On va tout de suite passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Si vous le voulez bien, je rajouterai en questions diverses un rapport que vous avez trouvé sur votre table à propos de la taxe de séjour. On est dans une période d'un petit peu d'insécurité législative et juridique sur il n'a pas été distribué ce rapport? Il va l'être. En fait, on pensait n'avoir pas besoin de voter cette délibération. Mais compte tenu de l'insécurité juridique dans laquelle nous sommes en ce moment, ça donnera l'occasion d'ailleurs de faire un petit peu le point sur la future organisation touristique du territoire. Nous avons préféré, par sécurité, revoter les taux de la taxe de séjour pour l'année prochaine, de manière à éviter tout couac administratif. Vous savez qu'en ce moment, les effets de la loi NOTRe sont en train de se mettre en place, que la compétence touristique va potentiellement passer à l'intercommunalité, sous des modalités qui restent un petit peu encore compliquées à expliciter, puisque la loi NOTRe prévoit, sauf pour les stations classées qui peuvent éventuellement délibérer avant le 1er octobre, en conservant cette compétence, prévoit le transfert à l'intercommunalité, mais l'Assemblée nationale serait en cours de voter une disposition qui permettrait à ces stations classées de rester complètement autonomes en matière de tourisme. Cette disposition existe déjà pour les stations de montagne et l'ANEL a demandé à ce qu'elle soit étendue aux stations balnéaires. Donc, ce qui nous met dans une situation particulièrement cocasse que je vous expliquerai tout à l'heure et qui explique notre volonté de voter cette taxe de séjour aujourd'hui. Donc, nous rajoutons, si tout le monde est d'accord, ce rapport à la fin du conseil municipal et on va passer immédiatement donc à l'ordre du jour de ce conseil municipal que je ne retrouve pas et qui est ici et qui est l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 24 juin 2016. Est-ce qu'il y a des questions sur ce procès verbal? Monsieur Lerouzic.
Avez-vous des retours sur la délibération 2016-56 concernant le syndicat d'assainissement?
Moi j'ai pas de retour pour l'instant. Il y a un certain nombre de négociations qui sont en cours. On a eu une réunion à la préfecture. Il faut couper le micro, monsieur Lozé. On a eu un certain nombre de négociations à la préfecture. On a eu une réunion qui a été organisée avec ACTA, la commune de la Trinité-sur-Mer et la commune de Carnac. Le préfet a reconnu qu'il y avait effectivement un problème. Et nous a demandé de trouver une solution entre ACTA, la commune et la Trinité-sur-Mer, et cette solution est en cours d'élaboration.
Oui, parce que l'autre, au mois de juin, j'avais omis de dire un complément. J'avais eu donc une réponse de la préfecture, le 10 juillet 2014, qui disait que l'arrêté du 9 décembre 2013 est clair sur ce point. Il prévoit donc en article 2 que l'intégralité de l'actif et du passif est transférée à la nouvelle communauté de communes ACTA sans passage par les communes. S'agissant néanmoins des biens meubles et immeubles, il est précisé que les communes restent néanmoins bien propriétaires des acquis des biens acquis ou réalisés par le syndicat, seule leur mise à disposition entraînant transfert de tous les droits et obligations qui leur sont associés est opérée au profit de la communauté de communes. Voilà la réponse de la préfecture le 10 juillet 2014.
Alors, monsieur Lerouzic, vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez lu l'ensemble des courriers, que l'un des soucis dans cette affaire, c'est que l'État a eu des positions différentes sur ce dossier à plusieurs reprises. Je peux vous lire d'autres courriers où la préfecture dit exactement le contraire, ce qu'a reconnu d'ailleurs le préfet lors de sa réunion. Donc il n'y a pas lieu de faire de cette question un point, je dirais, grave de l'ordre du jour du conseil municipal ou même de relations intercommunales. Aujourd'hui, on a un petit problème administratif, c'est qu'on attend simplement que la préfecture nous écrive clairement. Et encore une fois, j'ai toujours été clair sur le sujet. Si la préfecture nous sécurise juridiquement en disant que l'ensemble des actifs doit être transféré à ACTA, je les transférerai le lendemain. Tant que je n'ai pas cette sécurité juridique, dans la mesure où il s'agit d'argent public, j'ai mon devoir, c'est d'être extrêmement prudent. Donc, ce courrier que vous citez, je le connais, j'en connais également d'autres, et si le préfet a reconnu lors de la réunion il y a 3 semaines qu'il y avait un problème juridique, c'est bien parce que effectivement il y a une insécurité juridique. Donc, il nous demande de la régler. Je pense que si on ne parvient pas à la régler, il prendra une position définitive, mais je pense qu'il demandera également l'avis de services spécialisés, puisqu'il existe au sein de l'administration centrale des services spécialisés pour se prononcer sur ces questions extrêmement pointues. Donc moi, j'attends juste simplement qu'on me donne une réponse juridique fiable. Est-ce qu'il y a d'autres points sur l'ordre du jour ? Enfin, sur le compte rendu, pardon, du conseil municipal du 24 juin ? Pas d'autres points ? Je considère donc qu'il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au point 2, le compte rendu des décisions du maire prises en vertu des délégations du conseil municipal. Décisions qui sont donc numérotées de 102 à 144. J'imagine qu'il y a des questions sur ces décisions du maire.
La seule question que j'aurais, c'est qu'il y a quelques appels d'offres qui sont passés. C'est dommage qu'il y ait une commission d'appel d'offres qui a été composée le 19 avril 2014 et que cette commission n'est jamais réunie. Et pourtant, ce jour-là, vous aviez bien dit que cette commission était importante et que les membres vérifient les procédures des appels d'offres.
Monsieur Lerouzic, je vous rappelle que la commission se réunit dans des conditions extrêmement précises qui sont décrites par le Code des marchés publics. Quand le niveau ou le montant n'est pas dépassé, elle n'a pas besoin de se réunir et donc elle ne se réunit pas. On ne va pas réunir, cette commission pour le plaisir de siéger.
Voilà, mais on a passé donc le montant à 5 millions d'euros. Donc, ce qui veut dire qu'on ne réunira jamais la commission d'appel d'offres.
Ce n'est pas moi qui fais la loi, monsieur Lerouzic, ce sont les députés et l'Assemblée nationale.
Alors, pourquoi avoir constitué une commission d'appel d'offres ?
Mais parce que si d'aventure, d'abord c'est obligatoire de la constituer, si d'aventure nous avions un jour un projet à plus de 5 millions d'euros, la loi nous l'obligerait à la réunir et donc on la réunirait.
Oui, il suffit de saucissonner tous les appels d'offres. Et on est tranquille, écoutez, il n'y a pas de réunion de commission.
Monsieur Lerouzic, écrivez à votre député ou à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas moi qui fais les lois. Je ne fais que les appliquer. Le maire est le garant de l'application des lois et donc j'applique la loi. C'est tout. Monsieur de Ripper, vous avez une question ?
Oui, toujours pour rebondir ce que dit Marc Lerouzic. Bon, en effet, on définit un montant de plus de 5 millions d'euros. Je crois que le plus gros marché qui a été traité par la commune, c'est celui de la médiathèque qui fait 4 millions d'euros. C'est-à-dire que, donc, en effet, les 5 millions d'euros, on ne les atteindra jamais, donc on ne va jamais réunir cette commission. Mais rien ne nous empêche quand même de la réunir. Parce qu'on a, comme l'indique la Cour des comptes, on a quand même un problème de respect des procédures dans la passation des marchés, dans l'attribution des marchés. Enfin, c'est ce que dit la Cour des comptes. Je pense que dans un souci de transparence et de façon à ce que les élus aient quand même un contrôle sur les procédures de passation de marché, on pourrait réunir cette commission en mettant en place un seuil, je ne sais pas, de 300 000 euros, 400 000 euros, à voir en fonction de tous les marchés qui sont passés, de façon à ce qu'on puisse réunir cette commission et, en effet, contrôler la passation d'un certain nombre de marchés. Est-ce que c'est possible ?
Alors, monsieur de Ripper, je suis tout à fait ouvert à la transparence, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on discute les appels d'offres d'un montant relativement élevé pour la commune au sein d'une commission municipale dans laquelle l'opposition est représentée. maintenant réunir cette commission d'appel d'offres qui est très encadrée par la loi, encore une fois, et qui n'aurait donc aucune, ces décisions n'auraient aucune valeur juridique puisqu'elles ne s'incarneraient pas dans la loi, ça n'a pas vraiment de sens. En revanche, ce que je peux demander aux adjoints, et si vous en êtes d'accord, c'est dès qu'on a des marchés importants, et bien de faire en sorte que ces marchés soient présentés et discutés dans les commissions respectives qui traitent du sujet de ces commissions. Comme ça, vous aurez vu sur les appels d'offres et puis vous aurez... Monsieur Lerouzic, 2 secondes. Monsieur Lerouzic.
Oui, vous venez de dire les marchés importants, c'est-à-dire à partir de quel montant?
Ça, on peut le décider ensemble. Je n'ai pas de souci avec ça. La loi, effectivement... Alors, je pense que l'objectif de législateur en fixant ce montant à 5 millions, à titre personnel, je pense que c'est une erreur d'avoir pris cette décision. Le législateur a voulu simplement simplifier les procédures administratives pour les grandes villes comme Nantes, comme Rennes, dans lesquelles il y a effectivement beaucoup de marchés qui sont passés, des marchés importants. Et dans ces grandes villes, effectivement, il y avait un espèce d'embouteillage dans les commissions d'appel d'offres parce qu'elles devaient se réunir extrêmement souvent pour de nombreux marchés. Cette législation n'est absolument pas adaptée aux petites communes, je suis bien d'accord, puisque un marché à 5 millions d'euros, c'est vraiment extrêmement rare pour Carnac. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui fais la loi. Je ne suis là pour l'appliquer. Donc, si vous trouvez, et je vous suis dans cette remarque, que cette disposition n'est pas adaptée aux communes petites et moyennes, il faut écrire aux parlementaires pour leur demander de changer la loi. Encore une fois, je ne réunirai pas la commission d'appel d'offres dans la mesure où elle n'a pas de pertinence juridique dans ce cadre. En revanche, les commissions peuvent avoir une pertinence et donc j'ai aucun souci et je demande aux adjoints, chaque fois qu'il y a un marché, eh bien, d'en expliciter les tenants et les aboutissants dans les commissions qu'ils dirigent.
À ce moment-là, est-ce qu'on peut vous faire une proposition concernant le montant des appels d'offres concernés?
Faites une proposition.
De façon à ce qu'on décide quand même d'un seuil.
Faites une proposition.
D'autant plus que je voudrais pas commencer le débat sur le rapport de la Cour des comptes, mais enfin, on a aussi un problème de concurrence entre les entreprises.
Est-ce que c'est le premier rapport de la Cour régionale des comptes que vous examinez dans le cadre d'une fonction d'élu, monsieur de Ripper?
Écoutez, ma fonction d'élu, elle a démarré il y a 2 ans et demi.
C'est bien ce que
je pense que jusqu'ici, il n'y a pas eu de rapport de la Cour des comptes concernant la commune. Donc, en effet, c'est le premier rapport.
D'accord, c'est bien ce que je pensais. Bon, oui, donc, faites-nous une proposition, monsieur de Ripper.
Mais la conclusion, c'est quoi?
Comment?
La conclusion, c'est quoi? Vous me dites, est-ce que c'est le premier rapport?
Mais on a, c'est un point à l'ordre du jour du conseil municipal. On en discutera tout à l'heure, monsieur Dunlop. Donc écoutez, faites-nous une proposition, j'ai pas de souci avec ça.
D'accord.
D'autres questions sur ces décisions prises par le maire? Madame Le Golvan.
Oui. La décision numéro 104, donc on a un chiffre marché de prestations d'assurance, 6 sous l'eau, 158-001. On retrouve, enfin, ça correspond à quelle ligne? Parce que moi, quand je regarde les primes d'assurance à la ligne 616, je crois qu'on est à 31 et quelques mille euros. Et si je regarde les primes d'assurance concernant les charges de personnel, est-ce que c'est les deux réunis là? Je voulais savoir à quoi correspondaient les 158 000. Est-ce que ça correspond aux deux lignes ou. Pardon? Donc, oui, d'accord. Donc, tout est réuni, quoi. Très bien, merci.
Sur ces décisions du maire, monsieur de Ripper.
Justement, concernant les appels d'offres, la 119, Veolia, est-ce que Veolia était le seul à répondre sur cet appel d'offres?
Monsieur Durand.
Là, je n'ai pas la réponse de ça.
Non. Moi, je pense que Anne Yvonne doit l'avoir. Sur la décision 119, Veolia a-t-il été la seule entreprise à répondre? Oui.
Voilà. Donc on a un problème de concurrence.
Mais monsieur de Ripper, vous dites n'importe quoi. Pourquoi on a un problème de concurrence? Expliquez-moi.
Parce qu'on a une seule entreprise, on a une seule entreprise qui répond. Donc évidemment, si on a une seule entreprise,
Alors, c'est pas le fait de la municipalité. Attends, Monsieur de Ripper, vous construisez une maison, vous consultez trois artisans, il y en a qu'un seul qui répond. Vous avez un problème de concurrence ?
Monsieur le maire, j'ai travaillé 40 ans dans les travaux publics, donc je connais un peu la manière dont ça se passe. Et alors ? Quand on a une seule entreprise qui répond, ça veut dire que toutes les autres ont été découragées. C'est comme ça que ça marche. Si une entreprise ne répond pas, c'est parce qu'elle est absolument persuadée qu'elle n'aura pas le marché. Elle répond une fois, deux fois. Si le marché est attribué toujours à la même entreprise, les autres entreprises ne répondent plus. C'est quand même inquiétant qu'on ait une seule entreprise, alors qu'on a quatre grands groupes français de BTP. C'est quand même inquiétant qu'on ait une seule entreprise qui réponde sur ce type de marché qui est quand même à hauteur de plus de 200 000 euros.
Écoutez, Monsieur de Ripper, là, vous faites un procès d'intention. Ça nous est arrivé à de nombreuses reprises sur des lots de construction, notamment pour la rénovation de la salle du Ménec, pour la médiathèque, de n'avoir qu'une entreprise qui répond à un appel d'offres, y compris pour des lots de menuiserie. Donc ça arrive assez souvent. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'évidemment, il est toujours plus satisfaisant d'avoir de la concurrence et de nombreuses entreprises qui répondent à un lot, mais c'est absolument pas le fait de la municipalité. Alors, est-ce qu'il y a des ententes, vous connaissez comme moi aussi bien le secteur du BTP, c'est-à-dire que parfois, les entreprises, et d'ailleurs, elles ont été condamnées à de nombreuses reprises, se partagent des zones géographiques ou des communes, mais c'est absolument pas le fait des communes. Moi, à partir du moment où le montant du lot correspond au budget comparable dans d'autres communes et acceptable, et ils sont contrôlés, je peux vous le dire, de manière scrupuleuse par Anivon, effectivement, c'est jamais une très bonne nouvelle d'avoir un seul répondant à un appel d'offres, mais de là à y voir des intentions qui ne sont pas les nôtres et que vous évoquez, je pense qu'il y a un pas qu'il ne faut pas franchir.
Moi, je ne franchis aucun pas. Je dis simplement que c'est inquiétant qu'il y ait sur ce type de marché, il y a une seule entreprise qui réponde. C'est tout. Je ne vais pas plus loin.
C'est dommage, effectivement.
Quelle solution on a ? On a la solution, les entreprises qui sont susceptibles de répondre sur ce type de, sur cet appel d'offres, on les connaît. Enfin, on peut les connaître. Si on peut susciter, des réponses. Bien sûr. Non, c'est pas pire.
Monsieur, on va stopper le débat. Il y a une législation.
Ils vont tous répondre à condition qu'ils connaissent, qu'ils soient informés du montant de celui qui a le marché habituellement. Mais sinon, s'il n'y a pas d'information, ils répondront pas.
Je propose de terminer le débat. Monsieur de Ripper, il y a la loi. La loi est strictement respectée dans cette commune, y compris pour les appels d'offres et l'ensemble des autres dispositions. C'est totalement transparent. Il y a une communication légale qui est faite. Il y a des entreprises qui répondent ou qui ne répondent pas. Sur le point du fait qu'il n'y ait pas plusieurs entreprises qui répondent, je suis d'accord avec vous, c'est dommage. Mais ce n'est pas à la commune d'aller chercher avec les dents des entreprises pour répondre à des appels d'offres alors qu'il y a une procédure légale qui est parfaitement respectée. Point final. Point sur les décisions du maire. Madame Le Golvan.
Alors, la décision numéro 120, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette convention ?
Alors, convention mise à disposition du plateau sportif Saint-Michel. Monsieur Lejean, je crois ?
Oui. C'est le plateau sportif qu'on utilise lors du marché, des marchés hebdomadaires. Et donc, on a prolongé la convention de 6 mois dans le cadre de la revoir, puisqu'elle arrive à échéance, pour la revoir avec l'école Saint-Michel.
Pouvez-vous nous expliquer aussi pourquoi la cour, donc près du plateau sportif, servant habituellement de parking, a-t-elle été fermée tout l'été ?
C'est le plan Vigipirate qui a fermé avec les ganivelles, effectivement, la problématique à ce niveau-là. C'est une demande de l'État.
Donc la cour était fermée, mais pas le plateau, alors qu'ils se sont juxtaposés.
Oui, effectivement.
Le plan Vigipirate, c'est pas la commune, c'est pas notre police municipale ou gendarmerie qui décide de. C'est vraiment imposé.
Oui, par rapport aux écoles.
Tout à fait. Alors, il y a un dispositif Vigipirate qui a une déclinaison pour les écoles. Hein. D'ailleurs, un certain nombre de dispositions vont devoir être prises s'il est pérennisé, parce que l'État va nous imposer un certain nombre de mesures de sécurité à l'entrée des écoles, et c'est une disposition nationale, au même titre que d'ailleurs les mesures de sécurité qui nous ont été imposées pour le deuxième feu d'artifice. Ce n'est pas la police municipale et la gendarmerie qui décident de ce genre de choses. Le Vigipirate est un plan national, hein, c'est une déclinaison des plans de sécurité du ministère de l'Intérieur, et donc ce sont des dispositions nationales.
Alors, et juillet, août, même s'il n'y avait pas d'école,
c'est comme ça.
Ce sont des lieux dits sensibles au terme de l'arrêté Vigipirate qui a été pris suite aux attentats du mois de novembre, et donc ce n'est pas, on applique encore une fois la loi.
Bien, merci. Je continue la 123.
Oui.
Donc concernant l'occupation temporaire d'une parcelle appartenant donc à Monsieur Kéric, à quoi est-elle destinée?
C'est le passage pour pouvoir... Ah pardon, excuse-moi Michel. Non, vas-y, vas-y. Pardon.
Monsieur Durand.
C'est en fait l'accès au cimetière pour les camions, Michel.
C'est l'accès au cimetière pour les camions, pour les tombes et les prisons de pierre et tout ça.
D'accord. Compte tenu de l'importance de la parcelle, est-ce que on ne peut pas envisager de l'utiliser comme parking? Donc, en effet, nous avons constaté en étudiant le permis de construire de la maison des mégalithes que la capacité de stationnement donc, allait être divisée par deux. 80 places comptent à peu près 170 actuellement. Si le projet UNESCO aboutit, on peut penser que le nombre de visiteurs augmentera d'une manière importante. Après l'été que nous venons de passer, donc nous les Carnacois, on a pu vérifier que la gestion donc, du stationnement autour du site était proche de zéro, rendant le site du Ménèque très dangereux. Si on diminue les places de parking, qu'en sera-t-il l'année prochaine? Il nous semble nécessaire donc de mettre en place les infrastructures nécessaires avant de vouloir augmenter le nombre de touristes et de visiteurs. Donc voilà.
Alors, effectivement, je vous rejoins, hein, même si quand je vous entends dire proche de zéro, c'est un peu, je dirais, péremptoire et surtout un petit peu insultant à l'égard de CMN, puisque on ne peut pas dire que la gestion du stationnement est proche de zéro dans cet endroit. Elle pose effectivement des problèmes, en revanche. Et effectivement, je vous rejoins, la municipalité réfléchit à la possibilité d'étendre le stationnement dans cette zone, que ce soit sur ces terrains ou sur d'autres terrains. Encore une fois, il faut que le propriétaire privé soit éventuellement d'accord pour les vendre à la municipalité. Il faut aussi que la DRAC et la DDTM soient d'accord pour imposer des parkings à cet endroit. Mais effectivement, dans le cadre de l'UNESCO et de l'aménagement, la municipalité va devoir, en collaboration avec CMN, réfléchir au stationnement global et à la gestion de la circulation, je dirais, plus généralement sur l'ensemble du site mégalithique. Donc c'est en cours, on y réfléchit, c'est un problème qui existe depuis de nombreuses années, et effectivement, il faudra sans doute trouver des vases d'expansion en termes de stationnement à cet endroit.
Sous quel délai à peu près, monsieur le maire? Parce que là, le problème, il se pose cet été, il s'est quand même posé d'une manière urgente.
J'ai pas de baguette magique, monsieur de Ripper. Encore une fois, on est face à un propriétaire privé, il faut encore qu'il accepte de vendre ses terrains, il est propriétaire, donc voilà, on discute et on réfléchit également à d'autres endroits, mais il y a beaucoup de questions comme ça qui sont dans des zones extrêmement sensibles, qui nécessitent du temps, et moi je ne souhaite pas qu'on aille, à moins que ce soit votre solution, vers des expropriations. Donc ça se fait de manière concertée et en discussion avec le propriétaire, donc difficile de vous donner des délais parce que ce serait malhonnête de ma part.
Vous parlez de vente de terrain. Là par exemple, on loue le terrain.
Fait.
Cette personne, moi j'en ai discuté aussi, et je pense qu'il y avait des discussions préalables et favorables à louer son terrain, puisque déjà il signe une convention avec nous.
C'est plutôt... Alors, attendez, Madame Le Gaulement, si on fait un parking, il faut faire des aménagements. On ne va pas laisser le terrain dans cet état-là. Donc ça veut dire que si on fait des aménagements, c'est-à-dire que c'est la municipalité qui devra financer. La municipalité n'a pas le droit de faire des travaux sur un terrain privé. Donc un conventionnement peut être très utile dans ce cas, en laissant le terrain en l'état. Mais si d'aventure on voulait une solution pérenne à la hauteur de l'aménagement du site accepté par la DRAC, accepté par CMN, là, il faudra être propriétaire.
Oui, mais quand on a un cas d'urgence comme ça, pour par exemple le parking que vous utilisez, donc le plateau Saint-Michel ou les champs près du tumulus, vous n'avez pas fait d'aménagement et pourtant vous organisez le stationnement pour les marchés du mercredi et du dimanche.
Madame Le Goldman, vous ne m'avez pas écouté. Je vous dis que c'est une solution qui est possible. D'ailleurs, on l'utilise. Simplement, on recherche une solution pérenne avec un aménagement qui sera accepté par la DRAC, accepté par la DTM, accepté également dans le cadre du plan de gestion du site, dans le cadre du projet UNESCO. Et on ne peut pas faire les choses comme ça. Autre question sur les délibérations, sur les décisions prises par le maire. Madame Maga.
Oui, la 126, j'ai pas très bien compris parce que la somme totale d'aménagement de la salle des mariages et du bureau attenant, je connais pas le lieu donc je ne sais pas quel est ce bureau attenant, ne correspond pas à la somme des trois lots, travaux de sonorisation, travaux d'aménagement, fourniture d'éclairage, ça ne correspond pas à la somme totale.
Vous avez fait le calcul, quelle est la différence?
3 000 euros, quelque chose.
Monsieur Durand va vous donner la réponse.
En fait, il y a plusieurs montants de marché. C'est la sonorisation de la salle des mariages, il y a l'aménagement des plafonds de la salle des mariages, il y a également la rénovation de l'éclairage. Et pour un montant, alors le premier c'est 6185,16 TTC. Le deuxième, je crois, c'est 6185.
Oui, il y a peut-être une erreur
sur
le montant du deuxième marché.
C'était
en fait.
Bizarre voilà. Parce que c'était exactement la même somme.
Bravo Marie-France.
Oui,
D'avoir l'œil, parce que c'est vrai qu'effectivement, on s'aperçoit immédiatement qu'à partir du moment où il y a le montant similaire sur les deux marchés, ça paraît effectivement étonnant.
Mais ce sont des devis ou les travaux ont déjà été réalisés?
Non, ils n'ont pas été réalisés. Ce sont des devis qui ont été acceptés. C'est des travaux qui vont se faire. C'est dans le cadre du même aménagement qu'il y a eu ici dans la salle du conseil.
OK. J'en ai une autre pour la 138. Pourquoi y a-t-il une disparité de tarifs au niveau de la cantine? Je vois que le personnel enseignant a un tarif adulte, mais que ce n'est pas le même tarif pour tous les adultes.
Monsieur Oudoua,
entre la 138 et la 139,
oui, vous faites référence au tarif pour le personnel communal.
Et différent du personnel enseignant.
Alors, je me souviens d'avoir déjà répondu à cette question l'année dernière. On vous avait expliqué qu'en fait... Le personnel enseignant est rémunéré sur ce temps-là, alors que ce n'est pas le cas du personnel communal. La raison pour laquelle on a différencié les tarifs, c'est aussi un service rendu au personnel qui travaille pour la collectivité.
Le personnel enseignant, son horaire hebdomadaire, mensuel, et l'heure de repas est intégrée.
Une indemnité parce qu'il surveille les enfants pendant l'heure du repas. Voilà.
D'accord. Ok, parce que étant dans l'enseignement, j'ai jamais mon horaire, on n'a jamais compté une heure pendant mon heure de repas de midi. Donc,
ce n'est pas la municipalité actuelle qui a mis en place ce système-là, il perdure depuis de très nombreuses années.
D'accord. Bien. Pardon ? Et puis, je reviens toujours à mes litiges, donc la 143 et la 145, est-ce qu'on pourrait connaître le type de contentieux ? De nouveau avec ces.
Et 145. Monsieur Servet, il y en a un.
Oui, mais l'affaire Lefébure, elle s'est clos.
On a déjà parlé de nombreuses reprises au conseil municipal.
Terrain de Saint-Colomban, monsieur Lefébure a perdu. Et l'affaire. Non, c'est pas celui-là, pardon. C'est Submersion. Oui, merci. Et l'affaire Malin, c'est en cours également. C'est le dossier La Motte, de ce côté-là. Donc, ce sont des honoraires d'avocats
qui se
répètent au gré des étapes de la procédure judiciaire, des procédures judiciaires.
Je m'interroge sur quel est le contentieux. C'est un recours pour quoi? Pour quelle raison?
Alors, le Fébure, je crois que c'est un problème de submersion marine, c'est ça ? Et puis l'autre, c'est un permis, le permis de, du dossier Lamotte qui est attaqué par un particulier, je crois, de mémoire.
Ah, oui. C'est un recours du, d'un particulier contre le...
Contre.
Contre le permis de construire, ça.
Voilà, ouais, c'est ça.
La résidence.
Mais enfin, on l'a déjà évoqué. Hein,
ouais.
Bien, merci.
Je vous en prie. On passe donc au rapport numéro 3. Pardon, ah, Michel.
Oui, j'en profite. Il faudrait corriger le montant également de la 130. Là, il y a une erreur. Ce n'est pas 1160,40. C'est 25,569,12. Oui, la 130. Non, 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 c'est pas 1160, c'est 25,569,12.
Bon, les 4, les 2, plus les 18, ça faisait pas cher.
On passe donc au rapport suivant, qui est le rapport de la Cour régionale des comptes. Sur donc les, la comptabilité de la commune et ce rapport que je recherche qui est ici porte donc sur les années 2011 et exercice suivant, donc la une partie de la gestion de la municipalité précédente et de la municipalité actuelle. Ce rapport, et c'est pour ça que je faisais la remarque à M. De Ripper, parce que je suis en tant qu'élu à mon troisième rapport. Un rapport de la Cour régionale des comptes, c'est toujours un moment important pour une commune, hein, puisque effectivement sa gestion est passée au tamis extrêmement fin de la Cour régionale des comptes, et en général, et comme dans le cas précis, la Cour fait un certain nombre de remarques sur la gestion de la commune, et ces remarques sont toujours évidemment un moyen pour les communes d'améliorer encore leur gestion. Je vais simplement me contenter, parce qu'il y a un certain nombre de remarques qui ont été faites par la Cour, hein, qui portent sur la gestion de la commune entre 2011 et 2015, et qui donc est un héritage commun de la municipalité précédente et de la nôtre. Je dois dire que ce rapport est plutôt laudatif, hein, puisque, encore une fois, quand il s'agit d'interpréter le langage administratif de la Cour régionale des comptes, mais au global, je peux dire que la Cour régionale des comptes donne plutôt un satisfecit aux deux municipalités, puisque... elle dit notamment qu'en matière, il y a évidemment des améliorations et on en discutera puisque j'imagine qu'on va l'évoquer, mais la Cour dit que la situation financière de la commune n'appelle pas d'observation particulière au cours de la période 2011-2015, ce qui est, en termes de langage de la Cour régionale des comptes, plutôt, je dirais, insatisfecit, et donc je m'en félicite. Néanmoins, effectivement, on a beaucoup encore de domaines d'amélioration, hein, et notamment dans la commande publique, et un certain nombre, je dirais, de domaines dans lesquels la commune peut s'améliorer. Ce que je vais faire, je vais juste simplement vous lire le résumé du rapport. J'imagine que tout le monde en a pris connaissance, peut-être pas entièrement, mais c'est toujours très intéressant. Et donc, je vais juste simplement vous donner lecture du résumé de ce rapport. Donc, Carnac est une commune dont l'économie est orientée vers le tourisme. Sa population est multipliée par 10 en période estivale et 70% des habitations sur son territoire sont des résidences secondaires. Elle est désormais membre de la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique, mais son application dans l'intercommunalité gagnerait à être approfondie dans le domaine de la préservation de la qualité des eaux. Ça, c'est un dossier qui est évidemment très important et qui est en cours, et je dois dire que la situation s'améliore à vitesse grand V, mais c'était un dossier qu'il fallait, comme d'autres compétences d'ailleurs, que ACTA prenne en main, mais je dois dire qu'aujourd'hui, la coopération est plutôt bonne. Les élus auront également à se saisir de la question de l'avenir de l'Office du tourisme en termes de mutualisation des moyens au regard de ce que prévoit la loi du 7 août 2015, dit loi NOTRe, dans ce champ de compétences. Ces perspectives pourraient également s'étendre à la gestion du musée, notamment en termes de mise en réseau intercommunal de locaux dédiés aux réserves et à la restauration du patrimoine. Donc la Cour régionale des comptes pense effectivement que la qualité et le prestige de notre musée justifieraient qu'il devienne intercommunal. C'est le seul musée de France du territoire et je dois dire que je partage un petit peu cette analyse. Là aussi, c'est un dossier qu'on devra ouvrir dans les années qui viennent. Si la gestion comptable reste perfectible, tout est toujours perfectible, mais là c'est moi, c'est pas la Cour qui l'écrit, notamment en matière de connaissance et de valorisation de l'actif. Alors c'était déjà une remarque qui figurait dans les deux rapports précédents que j'ai eu à connaître en tant qu'adjoint aux finances, et effectivement, on peut peut-être encore s'améliorer. Donc la situation financière de la commune n'appelle pas d'observation particulière au cours de la période 2011-2015. En matière de ressources humaines, la commune devra se mettre en conformité avec la législation en vigueur sur le temps de travail. On va y travailler. Concernant la commande publique, la collectivité devra notamment veiller au respect des dispositions du Code des marchés relatives aux délais de notification, aux obligations de publication. Il est rappelé que toute mission confiée à un tiers sous forme de délégation de service ou de marché public doit se dérouler dans le cadre d'un contrat signé. L'exercice de cette mission en dehors de la période contractuelle est susceptible de mettre en cause la responsabilité de l'autorité délégante ou adjudicatrice. La commune met gratuitement à la disposition de l'association gestionnaire de la base nautique des locaux ainsi que le terrain. La redevance d'occupation devra être rétablie de sorte que son montant contribue de façon substantielle aux frais de réhabilitation assumés par la commune. Enfin, l'Office du tourisme joue un rôle important dans la promotion du territoire communal et son activité économique. Il est essentiellement financé par le produit de la taxe de séjour perçue auprès des structures hôtelières. La Chambre invite la commune à poursuivre l'amélioration de sa connaissance du public hébergé ainsi que son analyse des perspectives de collecte de cette taxe. Quant à la gestion du musée, l'information des élus est désormais améliorée par la publication annuelle d'un rapport d'activité détaillé. Voilà pour le résumé du rapport. Donc encore une fois, des domaines d'amélioration, c'est clair, mais je dirais une observation générale plutôt bonne, voire même excellente, parce que je peux vous dire que je me suis amusé à consulter d'autres rapports de la Cour régionale des comptes d'autres communes, et en général, la Cour est beaucoup moins tendre. Donc, voilà, je pense qu'il faut rendre hommage aux municipalités précédentes, hein, pas seulement d'ailleurs celles qui ont fait l'objet de ce contrôle, hein, la municipalité qui était dirigée par M. Bruno et celle qui est la présente aujourd'hui, parce que enfin, l'ensemble de ces process sont évidemment mis en place depuis de très très nombreuses années, et y compris d'ailleurs dans un certain nombre de rapports qu'on aura à traiter aujourd'hui, on peut toujours s'améliorer et toujours remettre évidemment sur l'établi les procédures de la commune. Donc je vais peut-être, maintenant on va peut-être passer au débat, est-ce qu'il y a des questions ou des interrogations sur ce rapport? Monsieur de Ripper, vous n'avez pas levé la main, mais je vous donne la parole.
Concernant la qualité des eaux, comment est-ce que vous interprétez le rapport de la Cour des comptes? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement? Ils veulent dire que la commune ne s'implique pas assez au niveau d'ACTA concernant la qualité des eaux, ou ils veulent dire que la commune prend des compétences concernant la qualité des eaux qui sont normalement dévolues à ACTA?
Alors, je pense que ce que la Cour, pour en avoir discuté avec la présidente, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que la Cour met en avant le fait que la coopération et, je dirais, la montée en puissance de la compétence au sein d'ACTA n'est pas encore totale, et c'est normal. Il y a eu un certain nombre de problèmes ces derniers temps, hein, pas tellement à Carnac, d'ailleurs, hein, mais qui concernait plutôt la commune de Crac. Et donc, on a une pression très forte de la part de la communauté des ostréiculteurs. Et par ailleurs, effectivement, je pense qu'on sera amené à prendre dans les mois qui viennent, une fois que un certain nombre d'arrêtés seront pris par la préfecture et par l'État, de manière à basculer totalement, sans doute, cette problématique et la compétence à la communauté de communes, notamment pour un certain nombre de dispositions qui sont aujourd'hui communales sur la surveillance de la qualité des eaux, hein, par exemple, puisque c'est un programme qui avait été mis en place par les municipalités précédentes, puisqu'on a décidé d'aller au-delà des dispositions légales en confiant à un opérateur sous une forme technologique beaucoup plus avancée, puisque ce n'est pas une mise en culture en boîte de pétri, mais une technique dite PCR qui permet d'avoir des résultats dans l'heure sur les pollutions éventuelles de nos eaux littorales. Et aujourd'hui, effectivement, la présidente m'a dit que, compte tenu de l'importance de la problématique pour la commune, elle ne voyait pas d'inconvénient à ce que, tant que ce n'était pas totalement clarifié, nous gardions ce programme, mais qu'à terme, elle pensait effectivement, et ben, je partage son avis, qu'il faudrait sans doute la basculer à l'intercommunalité. Il faudra effectivement que nous négocions avec l'intercommunalité pour voir si elle veut bien reprendre ce programme qui est assez innovant et unique sur le littoral atlantique, parce que toutes les communes ne vont pas au-delà des dispositions légales. Donc oui, à terme, je pense que le toilettage des compétences, mais bon, c'est assez normal quand on voit question du tourisme, c'est encore beaucoup plus complexe. Mais oui, la remarque allait un petit peu dans ce sens.
Est-ce qu'on a une influence sur le programme d'assainissement d'ACTA, c'est-à-dire sur la localisation, sur de l'assainissement collectif qui est,
bien sûr,
qui est réalisé.
Bien sûr, bien sûr. Je vous donne un exemple. La pointe du Gourec, par exemple, c'est quelque chose qu'on avait demandé à ACTA, et donc parce que c'était urgent et parce qu'on a une épée de Damoclès dans l'anse du pot sur le maintien des classements sanitaires, et donc on a demandé à ACTA de le faire en urgence, ce qui a été fait l'année dernière.
Alors justement, concernant ça, on remarque que les derniers réseaux réalisés se situent tous à l'intérieur des terres, en laissant en assainissement non collectif tout ce qui entoure la rivière de Crac, par exemple, Penouette, etc. Penouette n'est absolument pas concernée par le réseau d'assainissement. Or, une partie, je présume, il y a beaucoup de résidences à Penouette qui donnent directement sur la rivière de Crac. Je présume qu'une partie de la pollution qu'on peut constater est due à une déficience de l'assainissement non collectif. Alors, est-ce qu'on peut pas aller dans ce sens-là et demander à ce que soient réalisés d'abord les assainissements collectifs qui se trouvent le long des rivières, donc à ce moment-là, la rivière de Crac, le Gouillanzeur, etc.
Alors, c'est une très bonne remarque. Pour ce qui concerne le plan de travaux d'assainissement réalisé par ACTA, je vous demanderai de tourner votre question à l'ancien président du SIAC, puisque vous le savez que ce sont des plans pluriannuels. Et donc, ce qui a été fait au cours des 3 dernières années a été ce qui a été décidé par le SIAC il y a quelques années. Et je pense que c'était plutôt des bonnes décisions, d'ailleurs, puisque ces travaux ont permis de résoudre un certain nombre de problèmes. Et donc, c'est l'ancienne structure du SIAC intercommunale qui a décidé de ces travaux. Donc, si aujourd'hui, les travaux que vous venez de mentionner ont été faits au cours des 3 dernières années, c'est parce que au moment où la compétence a été reprise par ACTA, ce programme avait été, je crois même négocié d'ailleurs avec ACTA, Marc, et ces tranches ont été décidées à ce moment-là, parce que ces travaux sont pluriannuels, on ne les décide pas comme ça, je dirais, d'une année sur l'autre. Mais je prends en compte votre remarque. Je pense que le principal pourvoyeur de la pollution dans la rivière de Crac n'était pas tellement, je dirais, l'assainissement individuel, c'était surtout l'obsolescence de la station d'épuration de Plouarnel, qui était une station qui opérait par lagounage. Je connais un peu le problème, monsieur de Ripper, parce que je m'en suis préoccupé pendant très très longtemps. Et donc, avec un arrêté de rejet, d'ailleurs, qui était illégal avec cette station pendant de très nombreuses années, et c'est vrai qu'on a mené ce combat pour obtenir la rénovation de la station de Plouarnel, qui est aujourd'hui une station membranaire et qui rejette dans un cours d'eau, d'ailleurs, dont on peut se poser la question s'il a un débit suffisant pour accepter ce type de rejet. En tout cas, quand c'était une station lagunaire, c'était clairement pas le cas, et cette autorisation de rejet signée par le préfet il y a une trentaine d'années était totalement illégale. Et donc, en période estivale, la station lagunaire ne pouvait pas traiter correctement l'ensemble des effluents de la zone de Plouarnel et Ardevennes à cause de la population estivale. Et donc, on savait très bien, on l'a constaté, enfin, on a des analyses très précises sur le sujet, que la station rejetait vraiment des eaux qui étaient de qualité très médiocre, chargées en phosphore, chargées même en métaux lourds. Et cette situation s'est considérablement améliorée avec la station membranaire. Néanmoins, le souci, et pour en avoir parlé avec Eau et Rivière, c'est qu'il va falloir de nombreuses années avant que le lit du Gouillanzeur, et ses limons, qui comportent évidemment encore une grande partie de la pollution qui a été accumulée pendant une quarantaine d'années, eh bien, se régénère. Et on estime qu'il faudra entre 15 et 20 ans avant que ce limon, qu'il ne faut absolument pas toucher d'ailleurs, parce que si on le touche, on remue et on émet encore des pollutions suffisantes, enfin très importantes, reviennent à un niveau à peu près, je dirais, organoleptique normal. Maintenant, c'est vrai que notre priorité, je veux dire, à cette municipalité, c'est de traiter, si possible, et ACTA l'a bien compris, les zones littorales, parce que elles sont évidemment prioritaires, parce que un assainissement individuel qui fuit, je dirais, au milieu de la campagne, c'est certes embêtant, mais ça ne peut pas mettre en cause la qualité des eaux à proximité. Et c'est pour ça que la tranche du Gourec, on l'a obtenu en urgence avec ACTA parce qu'on avait vraiment un vrai problème sanitaire dans l'Anse du Pô. On a toujours un problème sanitaire dans la rivière de Crac, et notamment, alors je ne suis pas assez compétent pour vous dire si les problèmes des norovirus peuvent être liés à de l'assainissement individuel, mais il semble que ça puisse être le cas, puisque enfin, les matières fécales...
Ça a été identifié comme tel.
Voilà, ont apparemment, enfin pas de manière formelle, hein, parce qu'on est beaucoup souvent dans le fantasme, et c'est très difficile de décrire de manière très, très, très certaine de matière scientifique la provenance du norovirus. Hein, on est vraiment au début des recherches. J'en parlais avec quelqu'un de l'IFREMER. Mais en tout cas, il pourrait y avoir un lien, ça c'est certain. Et donc, quand on peut, et ce sera le but de la municipalité, on fera en sorte effectivement que ce soit plutôt les zones proches du littoral qui soient traitées en priorité. Monsieur Lerouzic.
Vous avez oublié qu'une autre commune également polluait les eaux du Guyenzer, c'était la commune de Plémel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu des marquages au sol au Runel, puisque donc tous les eaux de Plémel vont arriver là, et qu'il y a un bassin de rétention qui va se mettre en œuvre à cet endroit.
Tout à fait, il y a eu des gros travaux qui ont été faits.
Une équivalence de 6 000 à 7 000 équivalents habitants qui viendra de Plémel sur Carnac.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il va y avoir des gros investissements aussi dans notre station d'épuration dans les mois qui viennent, hein, plus d'un million d'euros pour renforcer sa capacité, notamment le changement du système membranaire osmatique qui va donc être changé pour permettre de conserver une qualité des eaux quasi potable à l'émissaire en mer.
Ouais. Et Jean-Yves de Repère parlait, pourquoi pas Pénouette, pourquoi on a choisi Kergroix. On a choisi Kergroix parce que donc l'émissaire venant de Plémel passe à côté, et là il y a également une pompe de relevage qui a été mise en place, donc c'est pour ça qu'on a branché Kergroix en même temps. Et Pénouette a nécessité une pompe de relevage conséquente également, parce que le village est en contrebas, il fallait remonter vers le Moustoir. Donc ce sera une autre tranche.
Voilà, on a la chance d'avoir l'ancien président qui vous explique pourquoi ce n'est pas Pénouette qui a été fait. D'autres questions
concernant la gestion financière, lors du dernier conseil municipal, nous avons débattu des emprunts contractés par la municipalité, par la commune, des emprunts qui sont à l'heure actuelle des emprunts à taux variable. Personnellement, je préconisais de sécuriser ces emprunts, qui sont des emprunts à risque, en transformant le taux variable en taux fixe. Monsieur Lejean était pas du tout d'accord, d'un avis contraire, et Monsieur Lejean a affirmé que cet emprunt n'était pas aussi risqué que je l'affirmais, et que d'ailleurs, alors je cite, et que d'ailleurs il était classé E3 dans un classement très officiel, le classement Gisler, ce classement E étant celui du contrat le moins risqué. Quand on lit le rapport de la Cour des comptes, on s'aperçoit exactement du contraire. C'est-à-dire que le classement E3, c'est un classement qui est très très risqué, puisque le classement il se fait de A à E, E étant le classement le plus risqué, et ensuite de 1 à 5. Donc E3, on est quasiment au maximum.
Je vous rappelle les emprunts. Attendez.
Affichez la page.
Non, mais d'accord. Voilà. On a un emprunt structuré à Carnac. C'est pas un emprunt toxique. D'accord. Dans le cadre de ce qu'a mis en place le gouvernement avec la banque d'Excès suite au problème des emprunts toxiques et du fonds de soutien, l'emprunt que nous avons est celui le moins risqué. Donc, dans ces cas-là, c'est dans quelle échelle vous vous situez pour pouvoir dire ce que vous dites. Dans les emprunts dits toxiques ou structurés, ce qu'a mis en place l'État, l'emprunt qu'a Carnac, le E3, c'est celui le moins risqué. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'État. Hein.
Monsieur de Ripper, vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent. La Cour régionale des comptes a le droit d'avoir un avis. Cette question a été traitée en conseil municipal, il a été voté, on ne peut pas revenir dessus. Moi, je remarque simplement que, et j'écoute toujours avec beaucoup d'attention les recommandations de la Cour régionale des comptes, il y a en France une Cour nationale des comptes, il y a une Cour régionale des comptes, ça n'empêche pas le pays d'être dans une situation financière dramatique. Donc, je préfère, parce que le conseiller n'est jamais le payeur, je préfère prendre une décision en mon âme et conscience sur ce sujet, plutôt que parfois d'écouter, même s'ils sont toujours sages, les conseils de la Cour régionale des comptes ou d'un conseiller municipal qui a un avis parfaitement légitime sur la question. Cette question a été traitée. Donc aujourd'hui, vous savez très bien que Il n'y a que l'avenir qui nous dira qui a raison et qui a tort. Et donc, si un jour, il y a un problème, bah, vous pourrez dire bah, « j'avais raison ». Et puis, s'il n'y a pas de problème, et bah, ce sera la municipalité et l'adjoint aux finances qui avaient raison. Donc, c'est vraiment, je dirais, des débats qui sont abscons et qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Mais bon, allez-y,
je ne remets pas en cause le vote qui a été fait. Je dis que simplement, ce vote a été influencé parce que M. Lejean a déclaré que cet emprunt était classé E et que E, c'était l'emprunt, c'était le classement le moins risqué. Ce qui est démenti par, à la fois par la Cour des comptes et quand on
chacun a pu examiner la structure précise de cet emprunt et les risques qu'il pouvait présenter et il en présente. Vous savez très bien que la structuration de cet emprunt est assez complexe, que la différence de taux qui pourrait déclencher un taux d'intérêt supérieur est également impossible et totalement complexe à évaluer pour un conseiller municipal de base. Et d'ailleurs, même les banquiers ont du mal à nous prédire l'évolution des taux. Et d'ailleurs, si quelqu'un pouvait les prédire, il serait probablement très très riche. Donc oui, on sait qu'il y a un risque sur cet emprunt. On a simplement arbitré en se disant que le risque nous paraissait, et on a pris des conseils, nous paraissait faible par rapport au cash out qu'aurait nécessité son extinction. C'est tout. Après, moi, je respecte totalement votre point de vue et il est même possible que vous ayez raison. Après, c'est un pari. On a une conviction, on prend une décision, voilà, gouverner c'est décider, c'est pas prévoir, comme disait Mendès France, on a pris une décision, c'était pas forcément la bonne, mais encore une fois, comme je vous le disais la dernière fois, on aurait pris l'autre décision, vous nous auriez défendu la nôtre. Donc voilà, c'est aussi pour ça que bah, parfois on vous écoute et puis bah, on prend quand même la décision qu'on estime être la meilleure pour la commune.
Pas du tout, je vous confirme que je ne remets pas en cause l'arbitrage, je remets en cause la déclaration de M. Lejean, c'est tout.
Monsieur Lejean dit en général des choses parfaitement sensées, et donc je pense qu'en cette occasion, il a dit des choses parfaitement sensées. Est-ce qu'il y a d'autres points sur ce rapport ?
Ah oui, bien sûr, la gestion de la commande publique, je ne vais pas y revenir, puisque j'ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure.
J'ajoute que
le marché qui est attribué systématiquement à Veolia, en ce qui concerne les travaux, les marchés sont attribués systématiquement à Eurovia, c'est-à-dire qu'on peut se demander là aussi s'il y a une concurrence.
Je pense qu'Eurovia connaît très très bien la commune. Je pense qu'Eurovia aussi a montré ses compétences sur beaucoup de chantiers un petit peu complexes. Encore une fois, vous savez très bien, parce que vous avez travaillé dans le BTP, vous connaissez ça très bien, je pense que la commune fait très attention à payer le moins cher possible en fonction des prestations. Maintenant, encore une fois, moi, je lis la presse, je vois que de temps en temps, il y a des ententes, mais en tout cas, nous, d'un point de vue purement légal, on respecte strictement les codes des marchés publics. Et je pense que quand vous regardez, par exemple, le dossier de la rue Saint-Cornélie, on a obtenu des prix qui sont vraiment extraordinaire compte tenu des estimations initiales. Et je peux vous dire qu'on fait vraiment très attention à l'argent public. C'est une de mes préoccupations principales.
Je vous ferai une proposition concernant les appels d'offres et le montant des appels d'offres. Concernant la gestion du personnel, le tableau, vous pourriez afficher, s'il vous plaît. Page 12. Hop, attendez, remets un peu. C'est la page d'après ? La 13, alors. Remenez un petit peu en avant, parce que normalement, on s'engage à fournir un tableau. Voilà. La collectivité tient désormais à jour un tableau des effectifs validé chaque année par le conseil municipal. C'est un tableau d'effectifs que j'ai jamais vu, moi. On n'a jamais validé aucun tableau d'effectifs.
Non,
jamais. Donc ça veut dire que, pour l'instant, il n'y a pas jamais aucun tableau n'a été validé en dehors de celui qui est joint au M14. D'accord ? C'est le seul qu'on connaisse. Qui n'est pas officiellement validé, ni formellement validé d'ailleurs, parce qu'au budget, il n'apparaît pas. Donc jusqu'ici, ça n'a jamais été fait. Donc, mais désormais, ça va être fait, c'est bien ça. Donc au prochain budget, on aura un tableau des effectifs qui sera validé par l'ensemble du conseil municipal.
Tout à fait.
D'accord. Parce que je vous signale aussi que le tableau des effectifs que vous m'avez fourni au 1er juillet, bon déjà, il faudrait le revoir, parce qu'en ETP, vous ne signalez pas dans le tableau des effectifs la correspondance en ETP. Donc ça, il faudrait que ça figure. Et quand on compare votre tableau au 1er juillet au tableau à fin décembre ou au 1er janvier, on s'aperçoit que les chiffres ne sont pas les mêmes, alors que le conseil municipal n'a voté aucun changement dans le tableau des effectifs. Donc en fait, on a déjà une disparité entre les deux tableaux.
Non, mais encore une fois, là, monsieur de Ripper, vous avez fait une déclaration au dernier conseil municipal qui est totalement inexacte et totalement fausse. C'est-à-dire que vous avez prétendu que en ETP, les effectifs augmentaient, les effectifs baissent. Mais on aura l'occasion, encore une fois, en conseil municipal, puisque nous avons pris cet engagement, et c'est la première fois dans l'histoire de la municipalité que ce sera fait, ça n'existait pas avant. Donc encore une fois, je vous lisais un rapport de la Cour des comptes, c'est aussi fait pour s'améliorer. Donc on va s'améliorer, on va faire valider par le conseil municipal ce tableau des effectifs qui n'avait jamais été validé dans l'histoire de la commune, et c'est encore une fois dans un souci de transparence, et vous pourrez constater à ce moment-là que vos accusations sont encore une fois sans objet.
Ce ne sont pas des accusations, monsieur le maire. C'est fondé sur les tableaux que vous m'avez fournis.
Non, mais c'est pas de ma faute si,
si
vous...
je prends. Mais je ne dis rien si les tableaux
sont faux.
C'est
pas de ma faute si vous interprétez mal les tableaux.
Non, les tableaux du M14, ils sont officiels.
On vous expliquera ça dans le détail au moment de la vote.
Les chiffres sont têtus, ils ne peuvent pas mentir. Donc, dans les tableaux, il y a des chiffres qui sont indiqués. Moi, je m'en tiens aux chiffres qui sont indiqués. Vous me dites les chiffres sont faux. D'accord, je veux bien que les chiffres soient faux.
Non, c'est votre interprétation qui est.
Non. Que les chiffres soient faux ou inexacts. Exact, je veux bien, mais ne me dites pas que mon interprétation est fausse.
Si, je vous
Moi,
le
je,
dis.
Prends les, je prends les chiffres et je compare
si,
les
si,
chiffres.
Si, je vous le dis, on constatera quand on interprétera,
eh ben,
quand on
mettra
les tableaux. Est-ce qu'il y a d'autres points à part le personnel?
Oui, concernant la gestion du personnel, est-ce que vous avez l'intention, concernant le temps de travail annuel et concernant la revalorisation des primes, est-ce que vous avez l'intention de vous mettre en régularité par rapport à la loi?
Bien évidemment.
Et sous quel délai?
Je pense que nous sommes en train de travailler sur le dossier. C'est des dossiers qui, évidemment, en droit social et droit du travail, c'est un peu compliqué. Il faut évidemment qu'il soit discuté en comité technique paritaire. Et c'est un dossier qui est, je dirais, sur le bureau de la DGS et de M. Charpentier, qui est en cours et qu'on mènera, je dirais, entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. De toute façon, il y a des changements de législation sur le régime indemnitaire qui vont entrer en vigueur au 1er janvier. L'idéal, ce serait effectivement de le faire avant le début de l'année prochaine.
D'accord. J'en prends note. La gestion de la base nautique, est-ce que la redevance annuelle contractuelle a été décidée?
Oui, on va traiter ce point, parce qu'effectivement, c'est pas normal que l'association ait un loyer aussi bas. Donc, on va régler ce point dans les semaines qui viennent.
Mais pour l'instant, il n'est pas le niveau n'est pas décidé.
Non, le niveau n'est pas encore décidé. Il faut qu'on en discute avec le club. Il faut évidemment que ce soit un niveau qui soit, je dirais. Suffisamment élevé pour justifier la qualité de l'infrastructure, mais évidemment, on ne veut pas non plus obérer l'équilibre économique du yacht club.
On va parler, puisque vous l'avez ajouté à l'ordre du jour, de la taxe de séjour. Est-ce que l'Office de tourisme avait pris des accords avec les plateformes de location entre particuliers?
Je vais laisser Mme Moreau répondre, mais je ne crois pas.
En fait, on nous a demandé de... C'est pas l'Office de tourisme, hein, c'est la commune qui donne ces informations auprès de l'organisme d'État fiscal. Donc on a envoyé ces informations, dont notre délibération. C'est pour ça que c'est important de délibérer, parce que, en fait, pour l'instant, il n'y a que quelques villes en France qui ont ces accords. Ça devrait s'étendre à plus de communes. Et justement, il faut que notre délibération soit bien dans les clous et qu'on en ait une cette année, parce qu'on peut imaginer que l'année prochaine, on nous la demande, et autant donner la délibération de l'année 2016 pour 2017. Donc, pour information, il y a eu un guide qui est sorti en février 2015, qui revoit un petit peu la réforme de la taxe de séjour, qui explique la réforme de la taxe de séjour aux collectivités. Parce que nous, l'Office de tourisme, pour répondre à votre question, on fait la collecte. Par contre, le montant et l'organisation de la taxe de séjour, c'est la délibération du conseil municipal. Ce n'est pas l'Office qui le décide. Pareil, les relations entre cette délibération de taxe de séjour et l'organisme d'État, j'ai un trou, Delphine, c'est DG FIP, c'est ça ? C'est la collectivité, c'est pas l'Office de tourisme. Nous, on est collecteur, mais on n'est pas organisateur des choses. C'est toujours la collectivité. D'où l'intérêt de délibérer aujourd'hui, parce que si au mois de janvier, au mois de février, on nous fait cette demande, eh bien, on aura une délibération dans les clous. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question.
Votre micro, monsieur Doripin, on ne vous entend pas très bien.
Excusez-moi, monsieur le maire. Je disais, en ce qui concerne le musée, est-ce qu'on a l'intention de se diriger, comme le recommande la Cour des comptes, vers une mutualisation au sein d'ACTA ?
Je crois que j'ai répondu à la question tout à l'heure, non ?
Non, je crois pas.
Si, tu as dit que... Si,
mais
si.
On va aller exactement... Enfin, ils font plusieurs recommandations. On va suivre exactement ces recommandations ou...
Alors, d'abord la Cour régionale des comptes fait des préconisations. Le décideur, c'est bien évidemment l'intercommunalité.
Oui.
Y a un schéma d'organisation touristique du territoire qui va être présenté au sein d'ACTA, je crois, au mois d'octobre, hein, qui est piloté d'ailleurs par Monique Thomas. Moi, je suis assez favorable à la préconisation de la Cour régionale des comptes. Je pense que le musée de Carnac, et particulièrement dans le cadre du classement UNESCO, a une vocation de rayonnement, je dirais, au-delà de la commune, voire même nationale et internationale, puisque la qualité de ses collections font que c'est vraiment le premier musée du néolithisme dans le monde. Donc oui, enfin, si l'intercommunalité acceptait cette mutualisation qui serait l'objet évidemment de compensation, parce qu'il y aurait, la CLET se réunirait, donc ce ne serait pas non plus ce que beaucoup de gens pensent qu'en transférant une infrastructure à ACTA, c'est des coûts en moins pour la commune. Ce ne serait pas aussi simple que ça, mais sur le principe, oui, je suis assez en phase avec les recommandations de la Cour régionale des comptes, et donc on va essayer de pousser pour cette solution, parce que je pense que le musée est vraiment un atout pour l'attractivité du territoire, pas seulement pour Carnac, pour l'ensemble des 26 communes d'ACTA. Donc, après, je ne suis pas l'unique décisionnaire, on a deux représentants sur 56, donc, mais oui, sur le principe, je suis assez d'accord.
C'est tout.
Ce rapport, maintenant, ayant été communiqué au conseil municipal et débattu, et sauf à ce qu'il y ait d'autres questions, il va donc être rendu public, et donc l'ensemble des Carnacois pourront donc consulter ce rapport. Encore une fois, je pense que c'est un exercice très sain, évidemment, parce qu'il permet d'abord, effectivement, de se comparer aux autres collectivités, ce qui est toujours assez sain de se comparer, et deux, comme le soulignait M. De Ripper, d'identifier des zones où on peut encore s'améliorer. Mais je peux vous dire, et encore sans faire de satisfecit particulier, mais je parle sous le contrôle de notre DGS. D'ailleurs, à l'occasion, je souhaite vraiment remercier les services, parce que la qualité d'exécution et le respect des lois, ce n'est pas le travail principal des élus, même si on y veille. C'est surtout le travail de l'administration communale, de la DGS, du DGS adjoint, d'Anne Yvonne, de l'ensemble des équipes. Et je profite, encore une fois, sans faire de satisfecit, de la qualité des appréciations de la Cour régionale des comptes pour remercier l'ensemble des services pour leur travail au quotidien, parce que c'est essentiellement grâce à eux que ce rapport est positif, et grâce à eux qu'on va encore pouvoir s'améliorer dans le futur. Donc merci aux services de la commune et merci aux élus qui contribuent également à ce résultat. Encore une fois, on peut toujours et on va s'améliorer. Donc je vous remercie. Alors, on passe maintenant à l'élection au Centre communal d'action sociale. Vous savez que la démission de Maïwenn Arouero, qui a été remplacée au conseil municipal, nous oblige à réélire un membre au sein du conseil d'administration du CCAS. Et à cette occasion, je ferai remarquer qu'on peut toujours s'améliorer, puisqu'on s'est rendu compte que depuis une vingtaine d'années, la commune ne respectait pas également, tout à fait la législation, puisque, en fait, les modalités d'élection des membres du conseil d'administration du CCAS sont encadrées précisément par la loi, et que la dernière fois nous avions désigné, en dehors d'un scrutin de liste, les membres de ce conseil d'administration. Et aujourd'hui, après nous être renseignés, encore une fois merci à Delphine, puisque c'est elle qui a levé le lièvre, nous allons nous conforter et nous allons respecter la loi, puisque nous allons élire les membres du conseil d'administration du CCAS au terme d'un scrutin de liste, c'est-à-dire que chaque groupe du conseil municipal va présenter sa liste et ensuite, en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste, ces membres seront donc désignés au sein du conseil d'administration du CCAS. Alors, si vous en êtes d'accord, je vous propose de voter à main levée. Monsieur Taripin.
Je voudrais intervenir là-dedans parce que vous dites que depuis des années on honore la loi, mais là on l'est toujours. Parce que la loi, elle dit aussi, dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans un délai de 2 mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs. C'est-à-dire que Maïwenn Arouero ayant démissionné le 3 juin 2016, 2 mois, ça nous fait le 3 août, c'est-à-dire que depuis le 3 août, on est totalement hors la loi. C'est-à-dire qu'on aurait dû voter au dernier conseil municipal.
Tout à fait.
Alors, ça n'a pas une grande importance, monsieur le maire,
Tout à fait. C'est pour ça qu'on l'a pas
fait. On est hors la loi, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais quand même, ça en a une, parce que depuis, le CCRS, il s'est réuni. Donc, le CCRS s'est réuni, là, en toute illégalité. Et c'est-à-dire que les délibérations du dernier CCAS de septembre, plus les décisions qui ont été prises, elles sont toutes illégales.
Non, pas forcément, parce qu'il faudrait pour ça que quelqu'un attaque ces délibérations, à moins que vous vouliez le faire.
Bah, moi, je les conteste.
Très bien, contestez-les, comme ça on fera un nouveau conseil d'administration. Ça prouve vraiment votre, c'est assez symptomatique de votre volonté de travailler pour l'intérêt général. Parce que les décisions que vous allez faire annuler, c'est des subventions pour des gens qui en ont besoin, c'est des factures de gaz, d'électricité pour des gens qui en ont le besoin. Et effectivement, on aurait pu réunir un conseil municipal uniquement sur cette question pour rester totalement dans la loi. On en a d'ailleurs parlé avec la préfecture, qui nous a dit, écoutez, attendez le prochain conseil municipal, et sauf à ce que vous ayez un conseiller municipal procédurier et effectivement très loin de l'intérêt général qui attaque ces décisions, effectivement, on pourrait être amené Monsieur de Ripert, je vous donne la parole, vous la prenez
là,
et vous n'intervenez pas.
Vous allez un peu loin dans
vos accusations. Je ne vais pas trop loin, monsieur de Ripert. Donc, encore une fois, oui, on aurait pu réunir un conseil municipal uniquement pour ça. On ne l'a pas fait parce que le CCAS, c'est un lieu où, je pense, chacun doit travailler pour l'intérêt général. Ce sont, encore une fois, des décisions qui sont... qui portent sur des gens qui en ont vraiment besoin. Donc, libre à vous d'attaquer les délibérations du Conseil du CCAS pendant ce mois et demi de vacances.
Ce ne sont pas les seules décisions qui ont été prises, d'une part. Je pense qu'on aurait pu procéder à l'élection au dernier conseil municipal. C'était tout à fait faisable.
Oui, mais on n'était pas prêts. On venait de découvrir cette liste. Et d'ailleurs, j'ai réuni Marc et Janine qui l'ont acceptée avant le conseil municipal. Donc, moi, si vous aviez refusé, on aurait procédé à ce vote. C'est d'ailleurs ce que j'ai proposé à Marc Lerouzic et à Mme Le Golvent. Donc, que vous ayez changé d'avis entre-temps, c'est une chose, monsieur Deripère. Mais encore une fois, libre à vous de saisir le tribunal administratif. Faites-le. Si vous trouvez ça aussi scandaleux et dramatique pour la commune, saisissez le tribunal administratif, qui vous donnera d'ailleurs raison. Non, et
Je pense simplement qu'on pourra respecter les procédures.
Bah écoute, la prochaine fois...
Parce qu'on ne l'a pas respecté non plus. La liste que vous avez là, elle vient d'être faite. La liste que vous avez là, c'est-à-dire la liste de Carnac un souffle nouveau, en fait, ce n'est pas la liste Carnac un souffle nouveau, puisqu'elle elle regroupe les deux listes d'opposition. Donc cette liste-là, elle vient d'être faite, monsieur le maire.
Et bien,
Est-ce que c'est normal?
Mais
est-ce qu'on n'aurait pas pu nous demander avant, puisque c'est un scrutin de liste? Est-ce qu'on aurait
Mais je voulais demander avant. Mais je voulais demander avant. Mais je l'ai demandé à Marc. On s'est quand même vu avant le conseil municipal et je vous ai expliqué cette problématique.
Dans la note de synthèse que vous envoyez, pourquoi est-ce que vous ne faites pas un appel à candidature?
Mais attendez, monsieur de Ripper, qu'est-ce qui vous importe que le CCAS remplisse les tâches pour lesquelles il est constitué, à savoir traiter des questions sociales, ou cette petite guerre picrocolline sans intérêt sur des débats administratifs? Moi, ce que je veux, c'est que le conseil du CCAS fonctionne. Et c'est un petit peu votre problème. C'est que en fait, vous n'êtes pas là pour travailler pour l'intérêt général, monsieur de Ripper. Vous êtes là pour essayer de trouver toutes les petites arguties juridiques pour embêter la municipalité. Et puis après, vous dites, ah, bah, la municipalité n'est pas transparente. Ah, la municipalité ne respecte pas la loi. Oui, c'est vrai, on aurait dû délibérer avant. J'ai réuni votre tête de liste, j'ai réuni monsieur Marc Lorzic, je leur ai expliqué la procédure, je leur ai dit mais pour leur laisser du temps, pour que c'était dit, je préférais le faire au prochain conseil municipal. Ça a été accepté par Madame Le Golvan, ça a été accepté par Monsieur Le Rouzic. Donc ne revenez pas en arrière. Ici, encore une fois, le débat est clos. Si vous voulez attaquer ces décisions, attaquez-les devant le tribunal administratif. Vous aurez votre victoire et un petit article dans Ouest France ou dans le Télégramme. Ce sera merveilleux.
Je pense que faire respecter la loi et la procédure, c'est dans l'intérêt général.
Je pense qu'on n'a pas la même conception de l'intérêt général.
Je le dis depuis le début, oui.
Donc, je vous propose de passer au vote, si vous êtes d'accord pour voter à main levée. Pas d'objection, donc...
Attendez, monsieur le maire, vous dites si vous êtes d'accord pour voter à main levée. Normalement, la loi prévoit que c'est un vote à bulletin secret.
Eh bien, ce sera à bulletin... Mais vous voulez voter à bulletin...
Demandez-nous au moins si on est d'accord.
Mais je viens de vous le demander. Je viens de vous le demander, monsieur de Ripper. Je viens de vous le demander. Vous êtes d'accord pour voter à main levée?
On est d'accord.
Ok, donc on vote à main levée. Enfin, franchement, monsieur de Ripper, je sais que c'est la première fois que vous êtes élu, mais ça vous arrive de vous dire que vous avez envie de travailler pour tous les Carnacois et pas simplement pour essayer de trouver des petits biais.
C'est un faux procès que vous me faites.
Mais non, c'est pas un faux procès, monsieur.
C'est un faux procès que vous me faites.
Mais c'est pas un faux procès, monsieur de Ripper.
Et ça vous arrange de faire ce procès?
Mais pas du tout.
Passons au vote, si vous voulez bien.
Pas du tout, monsieur de Ripper. Alors, donc, on pose à main levée. Qui vote pour la liste numéro 1, Carnac à votre image? Levez le bras. Je vais laisser les services compter le bras. C'est moins 4. Parfait. Qui vote pour la liste numéro 2, qui s'appelle comment? Normalement, c'est la liste qui est sortie des élections, hein, le nom de cette liste. Et donc, comment s'appelait votre liste? Parce que je m'y perds un peu.
Alors, la liste sortie des élections?
Ouais.
Carnac, un souffle nouveau.
Carnac, un souffle nouveau. C'est pas Carnac à venir ou...
Pardon? Vous nous encouragez, là?
Alors, donc, qui vote pour la liste numéro 2? Quatre voix, plus le pouvoir de Monsieur Bonduel.
Oui. Voilà. Et comme tout à l'heure, c'est moins 5 et non pas moins 4. Oui.
Mais monsieur Roudic a levé les deux bras.
Il y avait deux.
Parfait. Hein? Je ne sais pas si je vais les poser.
Oui, mais c'était à moi de les lire.
Ah bon?
Alors, il faut supprimer. Il a supprimé la phrase. Il a mis seulement compensé. Pardon?
De Ripper devant le tribunal administratif de Rennes. Alors,
excusez-moi, on passe. Je peux prendre juste la parole. Pourquoi toujours tourner en dérision des choses qui sont dites ou imaginer des accusations? Enfin bon.
Madame Bagarre, qui fait des sous-entendus sur la probité des appels d'offres? C'est moi peut-être?
Mais non, mais ce ne là, sont
là,
pas
ça,
des
vous, là, ça vous dérange absolument pas quand il s'agit de la majorité municipale. Par contre, quand c'est la minorité, là, je tourne en dérision. Ben non, je ne tourne pas en dérision. J'ai le droit de dire que quand on pèse des œufs de mouche dans les toiles d'araignée, c'est très loin de l'intérêt général.
Ce ne sont pas des accusations, ce sont des remarques.
Ah non.
Vous aussi, là, vous interprétez.
Non, pas du tout. Allez, on passe au point suivant. On est samedi matin. y en a qui veulent aller en week-end, j'imagine. Désignation des représentants pour Carnac-la-Clusaz. Là aussi, Madame Arruero était représentante de la commune au sein de l'association Carnac-la-Clusaz. Et nous vous proposons donc de remplacer Madame Arruero. En tout cas, la majorité municipale propose Madame Cathy Isoar, qui a accepté cette lourde tâche. Est-ce qu'il y a un candidat de la minorité municipale? D'accord, ben donc vous y restez. Non, mais vous êtes pas représenté au titre de la commune, si?
Si, je suis de la
D'accord.
commission. Donc ça, je comprends pas.
C'est juste pour remplacer, c'était en substitution de Maïwenn Arruero. Donc s'il n'y a pas de changement, je propose que Marie-France Bagarre soit également suppléante.
Non, mais Marie-France Bagarre est déjà élue. Enfin, le scrutin, là, excusez-moi, monsieur le maire, le scrutin se déroule comment, là? Chaque il y a une personne à remplacer.
Oui, il y a une personne à remplacer.
Bon, ça veut dire que la liste de... Enfin, la majorité présente un candidat et la minorité un candidat, ou il y a un seul candidat à présenter? Ça
fonctionne? Non, mais il y a enfin, dans les faits, si Marie-France Bagarre accepte de rester suppléante et donc représentée au sein de l'association, on ne vote...
Non, elle est
donc à ce moment-là, on a juste un membre à changer. Donc ce que je vous propose, c'est juste de changer le membre qui est donc démissionnaire, qui est Maïwenn Arruero, et dont ne touche pas au reste de la liste. Donc Madame Bagarre reste représentante du conseil municipal également.
Donc ça veut dire que chaque groupe peut, la majorité et la minorité
peuvent présenter
un candidat.
On pourrait réélire toute la représentation. On ne va pas le faire. On va juste remplacer Maïwenn Arruero, si vous en êtes d'accord.
Non, mais d'accord, pour remplacer
uniquement Maïwenn Arruero.
Et est-ce que nous aussi on peut présenter un candidat dans ce cas-là?
Si vous voulez changer.
Non.
Alors,
oui, c'est ça. C'est
ah bah
ça,
oui, mais ah bah bien sûr. Non, mais bien sûr que vous pouvez présenter un candidat s'il n'y a pas de problème.
C'est ça la question.
Ah bah, évidemment que vous pouvez présenter un candidat. C'est bien naturel. Est-ce que vous présentez un candidat?
Bon, ok.
Donc alors, il y a deux candidats pour succéder à Maïwenn Arruero. Il y a Madame Jeannine Le Golvan et il y a Madame Cathy Isoar. Donc qui vote en faveur de Madame Cathy Isoar? Très bien. Qui vote pour Madame Jeannine Le Golvan? Voilà, Madame Cathy Isoar, félicitations. Vous êtes élue représentante de la commune au conseil d'administration de l'association Carnac-la-Clusaz. Félicitations. Budget principal, décision modificative numéro 1, Monsieur Lejean. Au travail.
Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de modifier le budget en cours pour ajuster les prévisions comme suit. Donc, vous avez le détail. Je vous rappelle quand même, c'est la première décision modificative, il y en aura d'autres, puisque le budget prévisionnel est amené à évoluer. Derrière, vous avez au total plus 55 000 en dépenses et en recettes de fonctionnement et moins 25 950 en dépenses et en recettes d'investissement. Je suppose que je vais avoir des questions, donc ça ne sert à rien de lister tout, je vais attendre les questions, ça sera plus efficace.
Bah oui, c'est des rippers. Vous pouvez revenir un peu en arrière, s'il vous plaît. Voilà. Donc je voudrais pas ergoter et travailler contre l'intérêt général, comme dit monsieur le maire. Mais quand on fait les calculs, ça ne correspond pas. C'est-à-dire quand vous additionnez la totalité de vos dépenses de fonctionnement moins la diminution du virement prévisionnel, vous n'obtenez pas le chiffre que vous retrouvez après dans votre tableau. De même que quand vous, en recettes de fonctionnement, quand vous additionnez les recettes de fonctionnement moins les allocations compensatrices, moins la DGF de 5644, vous ne retombez pas non plus sur vos pieds.
Vous avez vu le tableau détaillé?
Oui,
d'accord, sachant que je vous rappelle que normalement on vote par chapitre et qu'on n'est pas obligé de vous envoyer le détail des modifications. Vous avez le tableau détaillé.
Non, mais vous nous donnez le détail. Donc si on additionne le détail, on ne retombe pas sur nos pieds, c'est tout. Je tiens simplement.
Alors on vous a redonné les grandes lignes dedans. Hein? On est bien d'accord?
Donc en fait, il en manque en fait. Il n'y a pas tout le détail en fait, c'est ça?
C'est
ça que ça veut dire.
Tout à fait. on a mis les lignes principales pour que vous puissiez effectivement les regarder, que vous puissiez poser des questions, qu'on puisse effectivement échanger ensemble, comme on l'a fait en commission finance, dans laquelle elle a accepté. Et c'était un peu le but. Donc c'est un résumé. On ne peut pas mettre toutes les lignes, parce que dans ces cas-là, il y en a quand même beaucoup.
Ok, d'accord. Je constate quand même qu'on finance une hausse des dépenses de fonctionnement par une baisse des recettes d'investissement.
Tout à fait, puisque nous avons effectivement modifié le virement à la section investissement. Vous avez raison.
Vous pouvez revenir un peu en arrière aussi. J'aurais vérifié que j'ai bien compris dans les dépenses d'investissement. Si j'ai bien compris, vous avez dit tous les investissements qui sont prévus et qui n'étaient pas prévus au départ dans la liste que vous nous avez fournie quand on a voté le budget, c'est ça?
Exact.
Hein, c'est-à-dire les 90 000 euros pour 60 000, 36 000. Donc tous ces investissements-là n'étaient pas prévus au départ lors du vote du budget. Et pour les financer, il y a un montant de 863 000 euros quand même. Pour les financer, en fait, vous amputez l'investissement qui était destiné au boulevard de la plage, c'est ça?
Entre autres. En résumé, oui.
Enfin, en résumé, c'est ça. C'est-à-dire que ce que vous m'avez expliqué alors, quand on a voté le budget, c'est-à-dire vous m'avez dit, enfin, monsieur le maire m'avait dit, gouverner, c'est prévoir, ou c'est décider. Enfin, gouverner, c'est prévoir aussi. En fait, tous ces investissements-là, on ne les a pas prévus. Et le budget soi-disant sanctuarisé du boulevard de la plage pour réaliser les travaux parce que vous les mettiez en réserve, ce budget-là, on est en train de l'amputer de la moitié.
Vous croyez vraiment à ce que vous dites là ou quoi?
Ouais,
vous êtes, non mais vous êtes sérieux?
Oui, je vous pose la question.
Quand je disais que vous aviez que 2 ans dans
je
votre...
Je vous pose la question, répondez-moi.
Attendez, Pascal, laisse-moi. Monsieur de Ripper, d'abord n'interrompez pas les gens. Il y a une certaine discipline. Vous avez parfaitement compris. Simplement, ma question, c'est, mais vous croyez vraiment avec conviction à la remarque que vous venez de faire? Vous savez très bien qu'une exécution budgétaire, elle est... D'ailleurs, et je peux dire qu'elle est plutôt fiable à Carnac, puisque c'est la première décision modificative. D'habitude, dans les communes, il y a 4, 5, 6 décisions modificatives par an. Là, c'est la première. Donc, un exercice budgétaire, c'est comme dans une entreprise. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez 40 ans d'expérience dans une boîte de TP. Bon, vous savez qu'un prévisionnel, effectivement, c'est fait pour être respecté, mais devant un certain nombre de contraintes, des découvertes, des investissements qu'il faut faire avant la date prévue, eh bien, ça nous arrive. Et vous verrez qu'avec l'expérience, vous le constaterez, de modifier assez souvent les dépenses d'investissement ou les dépenses de fonctionnement en fonction des aléas de la gestion d'un exercice budgétaire. C'est très classique et franchement, je suis très surpris que vous ne saviez pas, que vous ne sachiez pas que cela existe. Oui, de temps en temps, il y a des modifications et des sommes qui passent de l'investissement au fonctionnement. Effectivement, quand c'est trop souvent, quand il y a 5 ou 6 décisions modificatives, c'est pas forcément la preuve d'une bonne prévision budgétaire. Mais là, c'est la première de l'année. Je dirais que quand j'étais adjoint aux finances, on en faisait 2 ou 3 dans l'année. Et ça fait partie de l'exercice délicat de la gestion d'une commune comme d'une entreprise. C'est très difficile de prévoir. Donc ne faites pas croire aux gens, s'il vous plaît, parce que vous n'êtes pas naïf, vous avez suffisamment d'expérience pour dire que ce que l'on vote en début d'année, c'est gravé dans le marbre et qu'il faut absolument pas y toucher. C'est totalement inexact et vous-même, vous n'y croyez pas.
J'y crois d'autant plus que je ne conteste pas les 90 000 euros de modifications budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement, mais des dépenses d'investissement, presque 900 000 euros de dépenses d'investissement qui n'ont pas été prévues dans le budget, avec par exemple les travaux de voirie d'effacement réseau du centre-bourg pour un montant de plus de 400 000 euros, ça paraît quand même un peu surprenant qu'on n'ait pas prévu ça dans le budget.
Ne
vous énervez pas, monsieur de Ripper, ça n'en vaut pas la peine, c'est pas bon pour la santé.
On n'ait pas prévu les 90 000 euros pour les travaux de parking de la maison des Mécalites alors qu'on est informé de ça depuis plus d'un an, ça me paraît quand même très surprenant. 60 000 euros pour les eurodateurs qui ont été achetés, ça me paraît très très surprenant aussi.
Est-ce que vous voulez quelques explications ou vous souhaitez pas en avoir?
Allez-y, expliquez. Et c'est ce que j'ai demandé avant que monsieur le maire m'interrompe.
Ah non, mais vous m'avez demandé, est-ce que j'ai bien compris? Je vous ai répondu oui. On est d'accord, pas de problème. Maintenant, je vais vous donner quelques explications. Sur les travaux du bourg, la deuxième tranche du bourg, on est bien d'accord. Ces travaux vont être réalisés, vont démarrer fin de l'hiver et vont être surtout finis, vont démarrer début de l'hiver et vont être finis fin de l'hiver. On est à cheval sur 2 années civiles. En général, on va recevoir les factures sur la deuxième année, c'est-à-dire en 2017. On est bien d'accord ? Donc, je ne les ai pas inscrits au budget, effectivement, de 2016, puisqu'effectivement, je considérais que j'aurais les factures en 2017. Et donc, ils sont prévus. Et là, vous relirez, puisque je pense que vous l'avez bien lu, le rapport de la Cour des comptes. Vous prendrez la page 6. Vous regarderez la gestion comptable et budgétaire de ce que dit la Cour des comptes. Donc, si vous voulez, on l'avait quand même prévu. Le problème, c'est qu'on l'a imputé en 2017 et qu'effectivement, aujourd'hui, on nous a demandé de l'imputer en 2016 puisqu'il y a eu un marché et qu'il faut que ce soit inscrit au budget. Voilà la seule explication que je peux vous donner sur ce dossier-là et la seule qu'il y a à donner.
À ce moment-là, pourquoi est-ce que vous prélevez sur le boulevard de la plage ? Vous disposiez de 800 000 euros sur le restaurant scolaire qui ne va pas se faire.
Parce qu'aujourd'hui, vous savez aussi bien que moi que les 800 000 euros sur le restaurant scolaire, un, ça va se faire. Deux, vous avez reproché au départ qu'il n'y avait pas de réflexion sur les travaux sur le plan Marshall. Or, il y en a une, c'est programmé d'année en année. Dès que je peux, je vais vous répéter toujours la même chose. Je préfère prévoir que guérir. Et ma grand-mère m'a toujours appris qu'on ne pouvait dépenser que l'argent qu'on avait. Et que le restaurant scolaire arrivera avant le boulevard de la plage.
J'admets vos explications qui ne me satisfont pas. Qui ne satisfont pas, mais...
Par rapport à ce que...
Il faut savoir gérer sa frustration, M. Le
Maire. Ah, mais j'ai aucun problème de ce côté-là, monsieur le maire.
Peut-être vous en avez... Madame Le Golban.
Peut-être vous en avez...
De quoi ?
Je dis... Moi, j'ai pas de problème, vous en avez peut-être. Hein.
Ça dérape. Madame Le Golban.
Par rapport à ce que vous venez de dire, le restaurant scolaire se fera avant le boulevard de la plage. Donc le restaurant scolaire, vous pensez le démarrer quand ?
Le restaurant scolaire, les appels d'offres vont être lancés si c'est pas dans quelques jours, c'est ça ? Quelques semaines ? Et donc je pense début de réalisation, probablement premier coup de pioche en 2017.
Hein. D'accord. Et le boulevard de la plage ne commencera réellement que quand tous les travaux de restaurant scolaire seront terminés, c'est ça ?
Mais non, pourquoi ?
Pas spécialement.
Non, mais je pose des questions.
Ça n'a rien à voir.
Dès qu'on pose une question, vous êtes toujours ironique. Mais non, mais ça ricane, Madame Rouet me dit demain.
Quand la question.
On pose des questions. Je pense que ça permet aux autres conseillers municipaux qui sont jeunes aussi autour de cette table, en tout cas dans le conseil.
Vous n'êtes pas une jeune conseillère municipale.
Non, mais je parle des autres. Je pense que ça permet aussi d'être informé. Donc nos questions sont sensées, plausibles. Et quand vous dites que Monsieur de Repère ne travaille pas pour l'intérêt général, je trouve ça regrettable aussi parce que moi je vous ai vu depuis 10 ans. Vous avez eu un comportement qui n'était pas toujours très adéquat dans un conseil municipal. Et je trouve que... Oui, parfaitement.
Mais moi, j'ai toujours travaillé pour l'intérêt général.
Donc, j'aimerais que ça cesse aussi, c'est...
Non, ça ne cessera pas.
De critiquer M. de Repère.
Mais si, voilà. Si, mais Madame Le Golban...
J'ai ma réponse, merci.
La somme des intérêts particuliers n'a jamais constitué une politique municipale, pas plus qu'une politique d'opposition. Voilà bien ce que je vous reproche. Non mais par ailleurs, Philippe a parfaitement raison. On va terminer. Bien évidemment, les travaux de la cantine n'ont rien à voir avec le boulevard de la plage. Les travaux du boulevard de la plage débuteront à l'automne-hiver 2017 et ne sont absolument pas liés aux travaux de la cantine.
Et c'est pour ça que, si vous voulez, tous les ans, rappelez-vous, on a un DOB qui permet effectivement de débattre, entre autres, sur les travaux, même si des fois, nous ne sommes pas tout le temps d'accord. On ne va pas le dire le contraire, mais ceci dit, ça permet aussi de voir ce qui va être fait et à peu près quand est-ce que ça va être fait. Sur le boulevard de la plage, vous savez aussi bien que moi, les travaux du boulevard de la plage ne sont pas faits en une seule année, puisqu'il y a 2 kilomètres, donc ça mettra un peu plus de temps.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette décision modificative ? Pas d'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette décision modificative ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. On passe au rapport suivant, qui est la délégation de service public du casino, le fameux compte 471. Monsieur Lejean.
Alors, juste pour vous rappeler, le compte, le PAE compte 471, donc aujourd'hui n'existe plus puisqu'il a été, le gouvernement a arrêté. C'était une somme, un pourcentage qui était mis pour des travaux d'embellissement de la commune dans le cadre de la délégation de service public du casino. Ce compte 471 n'est plus alimenté suite à un décret de l'État depuis 2014 et doit être liquidé pour fin octobre 2016. La commune de Carnac a bénéficié d'un compte 471 qui aujourd'hui est d'un montant à la hauteur de 621 512,56 euros puisqu'il n'a jamais été utilisé depuis le début. Il est proposé de pouvoir rencontrer les nouveaux propriétaires du casino et de leur proposer tout simplement une répartition du compte 471, puisque je vous rappelle que le compte 471, s'il n'est pas sonné, il y a un risque pour qu'il reparte à l'État. Donc le but est de trouver une solution. Donc la solution qu'on vous propose, c'est de répartir et d'affecter, de proposer de répartir et d'affecter la somme de 370 000 euros à la commune de Carnac pour l'utiliser dans les lancements de divers aménagements et de circulation douce, avenue de la Poste, avenue des Salines et boulevard de la Plage, puisque le but c'est de faire la jonction, et pour le casino de Carnac de 250 000 euros, 512,56, pour utiliser pour l'aménagement des abords du casino côté Salines. C'est une proposition qu'on va faire, on n'a pas dit que c'était la somme qui allait être allouée, si, voilà, il faut que les deux parties soient d'accord.
Vous voulez dire qu'à l'heure actuelle, les deux parties ne sont pas d'accord sur cette...
Pour l'instant, on n'a pas fait de... C'est une offre qu'on doit faire et qu'on, donc on vous soumet, d'accord ? Qu'on vous soumet avant de l'envoyer.
Enfin, je pensais que c'était...
Non, ah ben non, on a respecté justement...
Il faut d'abord demander l'avis du conseil municipal sur une question comme ça. Et puis, de là à vous dire que les négociations sont évidemment bien entamées. C'est-à-dire que ce n'est pas une surprise ni pour le casino, ni pour nous, et qu'on a commencé à discuter d'un certain nombre de choses, et pas seulement d'ailleurs du compte 471. On a un nouvel opérateur, ils ont un grand programme d'investissement pour le casino, donc on est effectivement en contact assez serré avec eux.
Et donc ils sont, puisque vous avez entamé les négociations, ils sont plutôt favorables ?
Oui, bien sûr, ils sont
sur
plutôt...
Sur cette base-là ?
Oui, ils sont plutôt favorables.
Très bien.
Moi, j'avais juste une remarque par rapport au casino, la somme allouée. C'est marqué terrasse du restaurant. Or, on a déjà débattu de cela et on disait que c'était surtout toutes les places de parking qui étaient aussi pas suffisantes au niveau du casino. Ça aurait pas été préférable de mettre ça
Le principe de la répartition, c'est que chaque utilisateur fait un petit peu ce qu'il veut avec la somme, évidemment à condition de respecter la convention qui lie la commune et le casino. Et cette convention, elle est relativement, je dirais, peu précise, puisqu'elle spécifie l'embellissement des abords du casino. Donc déjà, le casino, je dirais, on a une relation cordiale avec le casino. Moi, je vais leur laisser utiliser l'argent comme ils veulent. Je suis d'accord qu'effectivement, si j'avais mon avis à donner, les places de parking, c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer. Je pense qu'ils travaillent dessus, mais je vais leur laisser décider, de l'utilisation de leur argent.
Je pense que dans la première chose, l'objectif quand même du casino, hein, avec les évolutions, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Vous voyez tous les ans dans les budgets la diminution de la dotation du casino au niveau de la commune, donc qui s'explique par les différentes ouvertures qu'il y a eu sur la Mort-Plage et Vannes. Donc Vannes a ouvert au mois de juin 2016 dans des locaux provisoires. L'Armor est passé dans des locaux définitifs. Donc effectivement, depuis le mois de juin, on subit encore le coût de l'activité du casino qui est toujours en baisse. Donc on le verra cette année dans les chiffres, puisque je pense qu'on va retrouver une année qui ne va pas être extraordinaire, puisqu'on devrait être à peu près en baisse de 15% de recettes par rapport à l'année dernière. Le but, c'est de retrouver une dynamique dans notre casino, puisqu'on sait qu'il n'y aura plus d'évolution par la suite. La seule évolution qui risque d'avoir... c'est l'ouverture définitive de Vannes. Et une fois que celle-là sera faite, on va se retrouver dans une concurrence qui va être stabilisée et donc de reprendre des parts de marché pour le casino de Carnac, ce que les nouveaux opérateurs sont prêts à le faire, dans un investissement important. Et qu'aujourd'hui, effectivement, s'il y a eu dans le temps un problème de parking, qu'il y a toujours à certaines époques de l'année un problème de parking, la priorité est de relancer le casino, puisque aujourd'hui, il est en baisse d'activité avant d'effectivement d'envisager d'étendre les parkings. S'il n'y a pas de clients, parking, il n'y a aucun intérêt.
On est dans un environnement extrêmement concurrentiel. Hein. C'est vrai que les conditions dans lesquelles le casino et la convention et la délégation de services publics a été négociée étaient vraiment totalement différentes. Enfin, l'environnement concurrentiel était totalement différent à l'époque. Et je vous rappelle aussi qu'un casino n'est pas immortel. Hein. On a vu ce qui s'est passé à la Trinité-sur-Mer. Il y a entre six casinos qui ont fermé cette année en France. Donc l'intérêt bien compris de la commune, c'est évidemment d'avoir un casino qui existe, ça c'est sûr. Ce sont des ressources importantes pour la commune. Deux, un casino dynamique et si possible en croissance. Et trois, un opérateur, ravi de sa situation économique et évidemment qui a envie d'investir. Je pense que là, on a un opérateur qui est de nature un petit peu différente du précédent, parce que là, ce sont des privés. Ce ne sont pas un grand groupe comme l'est le groupe Barrière ou le groupe Accor. Et donc ils ont une volonté d'investir de manière importante dans le casino. On ne peut que s'en féliciter. Je dois dire que voilà, les autres maires des communes que j'ai contactées qui ont vu leur casino repris par ces deux opérateurs s'en félicitent, y compris d'ailleurs les employés, puisqu'il n'y a pas de casse sociale. Ils tiennent leurs engagements, ils investissent. Donc j'espère qu'ils tiendront leurs engagements à Carnac. Et évidemment, l'intérêt de la municipalité, c'est qu'on ait des relations cordial, c'est-à-dire quand j'entends cordial, je dis évidemment on est là pour défendre les intérêts de la commune, hein, il ne s'agit pas de laisser l'opérateur, décider des conditions de son association et de la délégation de services publics avec la mairie, mais on a besoin, je dirais, comme dans tout bon accord, que les deux parties soient satisfaites et que le casino puisse opérer dans des conditions concurrentielles qui ne soient pas trop compliquées, parce qu'il faut absolument effectivement enrayer cette baisse du produit brut des jeux, parce que ce sont des ressources pour la commune qui disparaissent si d'aventure le casino n'est pas en bonne santé économique. Donc voilà, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre cette proposition de répartition du compte 571? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 8, monsieur Servet. Le micro, c'est mieux.
Merci, aménagement du secteur sud de l'église Saint-Cornélie. Il s'agit d'une demande de subvention à l'attention pour partie d'ACTA au titre du fonds de concours pour 41 666 euros et à la fois vers le département à hauteur de 58 487 euros.
Sur cette demande de subvention.
Juste pour vous rappeler, hein, sur les demandes de subvention, on est sur des montants hors taxes, alors qu'effectivement, la commune, dans les comptes de la commune, on va avoir des montants TTC. Mais les subventions se font demander que sur des montants hors taxes. Hein.
Merci de cette précision. Pas de questions? On peut passer au vote? En général, pour les demandes de subvention, tout le monde est d'accord. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 9. Monsieur Servet, toujours.
Toujours l'aménagement Sud-Bourg. Il s'agit des travaux d'effacement des réseaux de télécommunications et d'éclairage public. Donc trois axes. D'une part, l'effacement des réseaux électriques entre le carrefour rue du Golor, avenue de la Poste, jusqu'au carrefour rue Colary, rue Kerana. Donc pour les réseaux électriques d'une part, les réseaux France Télécom d'autre part et la rénovation de l'éclairage public qui en corollaire de ces effacements de réseaux. Donc les montants sont indiqués, vous les avez sous les yeux. La part communale et de l'ordre de 19 460 euros hors taxes pour l'effacement des réseaux électriques, 4 920 TTC pour les réseaux France Télécom et 17 490 pour la rénovation éclairage public.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 10, l'AVAP. Je crois qu'on avait déjà désigné ses membres communaux, mais il faut désigner nominativement, ce qui est un peu surprenant, d'ailleurs, les personnalités qualifiées, c'est ça?
C'est exactement ça. Donc au sujet de l'AVAP, l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, nous avions effectivement, en délibération d'un précédent conseil municipal, désigné l'ensemble des membres composant la commission locale AVAP. qui se réaffiche sous les yeux de tout le monde. Simplement, il nous a été fait observer que pour être dans les clous, il fallait que les personnes qualifiées soient nominativement désignées. D'où la modification que l'on voit sur les quatre dernières lignes. Ce sont les noms des représentants respectivement directrice du CAUE, directeur de l'Office de tourisme, président de l'Union des commerçants et membre de l'association des Amis de Carnac, en les personnes de Mme Gilouri, M. Maisonneuve, M. Justhomme et Mme Bernard.
Il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 11, partenariat pour les ateliers pédagogiques scolaires avec le Centre des Monuments Nationaux. Monsieur Oudois.
Donc le Centre des Monuments Nationaux et le Musée de Préhistoire se sont associés pour proposer aux scolaires une journée mégalithique commune avec des ateliers proposés dans l'une et l'autre des structures. Vous avez le détail de la convention de partenariat qui vous a été remise. Et donc voilà, ce qui vous est demandé, c'est de donner votre avis sur ce projet de convention pour cette journée mégalithique.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, toujours Monsieur Oudois.
Donc là, il s'agit de l'aide destinée aux familles carnacoises pour les séjours scolaires. Donc il vous est expliqué que donc, ce sont des séjours avec une nuitée minimum organisée par un établissement scolaire carnacois ou une association carnacoise, dans la limite d'un plafond correspondant à 60% du coût des voyages et en fonction d'un quotient familial. Alors là, vous l'avez compris, le tableau ne figure pas à la suite en page 12, mais c'est le tableau qui figure en page 13 sur lequel donc, les quotients familiaux sont indiqués.
Il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Oudois, rapport suivant.
Alors là, il s'agit d'attribuer donc aux deux collèges, à savoir donc le collège Les Corrigans et le collège Saint-Michel, une subvention de l'ordre de 2000 euros pour des activités pédagogiques à vocation citoyenne. En précisant donc que cette participation peut inclure l'ensemble des frais de ces activités, donc à la fois les frais de transport, d'hébergement, de spectacle, d'intervention pédagogique, etc.
Des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport 14. Toujours Monsieur Oudois.
Il s'agit cette fois-ci donc de subventions pour les séances d'activité nautique des collèges, donc également collège public Les Corrigans, collège privé Saint-Michel. En fait, c'est juste le prolongement de ce qui se fait habituellement et donc d'accompagner les séances à hauteur de 12 euros par séance et par élève.
Des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est pour? Non, excusez-moi. Je m'en mêle les pinceaux. Qui est contre? Pardon. Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie, Monsieur Oudois. On continue le marathon.
Alors, subvention 2016 aux associations sportives des deux collèges, toujours les mêmes. Moi aussi, je m'embrouille un petit peu.
Vous êtes fatigué?
Oui, il en reste deux, en ce qui me concerne. Donc il est proposé d'attribuer donc, à l'association sportive du collège des Corrigans et à l'association sportive du collège Saint-Michel une subvention de 17,80 euros par élève licencié habitant Carnac.
Des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Bientôt la délivrance, Monsieur Oudois.
Oui. Dernière en ce qui me concerne, subvention des transports des élèves aux activités aquatiques. Donc l'intercommunalité Aurec-Quiberon Terre Atlantique finance des initiations pour apprendre aux enfants à nager à la piscine dorée. Et en fait, la commune propose de prendre en charge les frais de transport pour que les élèves puissent bénéficier de ces séances. Donc il s'agit des élèves des écoles des Corrigans et de Saint-Michel pour 12 séances maximum.
Pas de questions ? Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport 17. Personnel.
Monsieur, pardon. J'aurais une question par rapport aux subventions. Ça n'a rien à voir avec ça, mais j'en profite. Est-ce que, en tant qu'opposition, on peut consulter, parce que chaque association, dès qu'elle fait une demande de subvention, dépose un dossier. D'accord. Oui. Est-ce que on peut consulter oui. On peut donc on prend rendez-vous avec.
Il y a une commission qui traite de ces sujets en fait, puisque l'ensemble des demandes de subvention sont examinées en commission.
Oui, mais j'aimerais, moi, aller consulter donc un dossier particulièrement. Donc, je demande, est-ce que je peux...
Bien sûr. C'est donc le cadre de la transparence, il n'y a aucun souci.
D'accord. Donc, je prends rendez-vous avec...
Alors, il ne faut pas, évidemment, que prendre trop de temps, mais prenez
je peux le consulter.
Vous prenez rendez-vous avec l'adjoint en charge ou avec Anne Yvonne.
D'accord.
Et puis, vous consultez le dossier.
Très bien.
Pas de souci.
Merci.
Alors... 17, personnel communal, modification du tableau des effectifs. Et donc, d'habitude, c'est M. Chapelle qui s'en occupe, mais il n'est pas là. Et donc, est proposé au conseil municipal de. Alors, toujours dans le cadre du toilettage de tableau des effectifs, parce que vous on en avez déjà parlé. On avait un certain nombre de postes créés qui n'étaient pas des postes occupés. Et donc, depuis quelque temps, on s'attache au fil des départs, mais également de la gestion, je dirais, de la bonne et saine gestion de la commune, de rapprocher. Les effectifs des emplois effectivement occupés avec ceux des postes créés. Bon, c'est toujours très bien d'avoir une petite latitude qui permet d'avoir un peu de souplesse dans la gestion des ressources humaines. Et donc, on vous propose, suite à un départ, de supprimer un emploi d'attaché de conservation du patrimoine, un emploi d'adjoint technique de deuxième classe à temps non complet 90%, et donc de créer un emploi d'adjoint technique de deuxième classe à temps complet. Vous avez bien compris que c'était la personne qui était à 90% qui passe à 100%, c'est bien ça, Madame Michard. Et donc de tenir compte de ces modifications dans l'application de la délibération du 20 novembre 2002 sur le régime indemnitaire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ?
Je n'ai sans doute pas bien compris. Un emploi d'attaché de conservation du patrimoine, c'était un poste non pourvu, ça ?
C'était un poste pourvu, mais c'était un départ en retraite, et donc on supprime le poste.
D'accord.
Pas d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, toujours une douleur, les admissions en non-valeur ?
Oui, donc le trésorier a présenté la liste des produits recouvrables suivants. Donc vous avez deux références qui sont des droits de place marché. Donc il y en a une pour, c'est les mêmes montants, là c'est pas une erreur, c'est normal, c'est les mêmes surfaces, ainsi de suite. Un débiteur décédé, des hérités inconnus, donc de mettre en non-valeur pour 2 fois 302,10 € pour 604,20 €. Ça a été présenté en commission des finances.
Est-ce qu'il y a des questions sur ces admissions en non-valeur qui, encore une fois, sont toujours des... Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe donc maintenant aux questions diverses, avec l'ajout en... C'est une question diverse, pardon. Puisque ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour, c'est une question diverse. Les questions orales, c'est après. Alors, un projet de délibération donc, qui vous a été distribué, qui est donc purement administratif et qui va d'ailleurs nous permettre, et je vais me permettre de vous faire un petit point sur la future organisation touristique du territoire, à l'occasion de ce vote de la taxe de séjour, qui est essentiellement un vote de sécurisation juridique dans un environnement, encore une fois, législatif un petit peu instable et des lois susceptibles d'évoluer et des arrêtés d'application susceptibles également d'être publiés. On s'était quitté, je crois, lors d'un ancien conseil municipal, je crois au mois de juin, sur une organisation touristique qui était la suivante, puisque vous savez que la loi NOTRe, d'une manière générale, donc, impose le transfert de la compétence touristique vers les l'intercommunalité, mais sous des modalités, nous sommes en France, hein, c'est comme l'orthographe, il y a toujours à chaque règle un certain nombre d'exemptions et d'exceptions, et donc si les usines à gaz étaient un bien d'exportation, je pense que le commerce extérieur français serait très excédentaire, et donc, comme d'habitude, on nous a fait une loi un petit peu complexe qui est basée sur un principe général, le transfert de la compétence à l'intercommunalité, mais un certain nombre d'exemptions pour les stations classées notamment. Donc le premier schéma qui avait été celui proposé par le premier cabinet qui avait travaillé par ACTA était un schéma dans lequel on voyait la compétence intercommunale s'exercer sur un périmètre non total, c'est-à-dire que dans un premier temps, les communes, les stations classées, puisque la loi leur permettait, restaient à l'écart de la compétence intercommunale et choisissaient par conventionnement de garder une certaine autonomie, je dis bien certaine autonomie, puisque dans le cadre de ce schéma qu'on vous avait présenté au mois de juin et qui avait été accepté par l'ensemble des conseillers communautaires, eh bien, donc on avait la création d'un office intercommunal qui aurait regroupé toutes les communes de l'intercommunalité, sauf Quiberon, la Trinité-sur-Mer et Carnac, qui étaient les stations classées. Carnac, la Trinité-sur-Mer et Quiberon auraient fonctionné de manière autonome, mais néanmoins sous une gouvernance intercommunale, puisque dans le cadre des EPIC, qui seraient, enfin à Carnac en tout cas, l'EPIC serait toujours resté en fonction, eh bien, les membres élus au conseil d'administration de l'EPIC auraient été désignés par l'intercommunalité, à savoir forcément des membres du conseil communautaire et un financement qui était également communautaire. Donc cette autonomie était toute relative, puisque en fait, en termes de gouvernance, c'est des conseillers communautaires qui auraient remplacé les élus de Carnac au conseil d'administration de notre EPIC et de notre office du tourisme. Par ailleurs,
je vous interromps une seconde, mais pas tous, ils n'auraient pas remplacé tous les élus.
Ah si, tous les élus, sauf les professionnels. Enfin, quand je parle des élus, je parle des conseils municipaux.
Vous voulez dire que dans ce schéma-là, il ne restait, en dehors des élus communautaires, il ne restait plus aucun élu de la...
Non, non, de Carnac ? Non, aucun.
De Carnac.
Aucun. Mais non, aucun.
Ah, les deux.
Bah, sauf les conseillers communautaires élus du... c'est-à-dire Monique Thomas et moi. Ça leur a été la seule possibilité.
Donc,
et pas forcément.
Pas forcément les deux, mais il n'y avait plus aucun élu, de Carnac, plus même aucun dans cette solution-là.
Plus aucun élu de Carnac. À part les deux conseillers communautaires. C'est pas la peine de plisser les yeux. Enfin, c'est le dossier, je le connais un petit peu. Donc, et je suis aussi, je trouvais ça totalement scandaleux. Mais malheureusement, c'est écrit. Hein, donc, c'est un document KPMG. Donc, il n'y aurait plus aucun élu de Carnac, sauf les élus du conseil communautaire élus de Carnac. Donc, quand je dis autonomie toute relative, c'est vrai que c'est une autonomie toute relative, et ça voulait dire aussi, accessoirement pour vous, plus de représentation également de l'opposition municipale, puisque de toute façon, plus de représentation du conseil municipal dans son ensemble. C'est pour ça que cette solution était pas vraiment satisfaisante. Hein, elle permettait de garder une autonomie qui était en fait une autonomie de façade, et qui était surtout, je dirais, une prise de contrôle totale de l'intercommunalité. Et donc, les conclusions du premier cabinet, qui n'était pas fait un travail extraordinaire, ont été infléchies par KPMG, qui a commencé une mission à la fin du mois de juin. Et KPMG, fort de son expérience, puisque KPMG a mené cette fusion de la compétence dans d'autres intercommunalités, notamment la Baule, a fait une proposition un petit peu différente aux élus. KPMG a exposé l'ensemble des possibilités qui allaient de celles que j'ai décrites, un office du tourisme autonome, mais également les autres possibilités, à savoir un office communautaire total qui regrouperait l'ensemble des communes. Donc au départ, nous n'étions pas partis dans cette voie. Moi, je pense que la logique et le sens de l'histoire, c'est... et on est plus puissant à plusieurs que tout seul, surtout dans des domaines de la promotion touristique qui sont extrêmement consommateurs de ressources financières. Si d'aventure on proposait à la commune de Carnac et aux autres communes des conditions satisfaisantes, J'ai pensé que la meilleure solution, c'était d'aller vers un office intercommunal, particulièrement au regard de la solution qu'on nous proposait initialement, qui était une solution d'autonomie qui était très relative. Donc des discussions ont eu lieu au cours de l'été, comme vous pouvez l'imaginer, sur à la fois le véhicule que cette nouvelle compétence, le véhicule qui allait abriter cette nouvelle compétence, puisque là aussi la loi nous offre plusieurs possibilités. Les possibilités sont, et je schématise, un EPIC intercommunal, qui a effectivement les mêmes caractéristiques que notre EPIC à nous, et il a des avantages, notamment en dehors de sa rigidité de fonctionnement, parce que c'est une collectivité qui est soumise donc à la comptabilité publique, donc c'est plus lourd qu'une SPL, on en parlera tout à l'heure. Mais donc l'avantage de l'EPIC, c'était, et je schématise, hein, globalement, c'était de pouvoir associer les professionnels, les socioprofessionnels dans la structure, puisque la moitié des membres du conseil d'administration de l'EPIC auraient été des socioprofessionnels désignés par les professionnels au sein du périmètre de l'intercommunalité, et la moitié des élus désignés par le conseil d'administration, enfin par le conseil communautaire. C'est-à-dire qu'il y aurait eu la moitié d'élus désignés par le conseil communautaire, la moitié socioprofessionnels. Donc c'est une solution qui était séduisante pour la représentation des socioprofessionnels, et on sait que dans le domaine du tourisme, les socioprofessionnels ont un rôle vraiment capital à jouer, et donc cette première solution a été sur la table. La deuxième solution, qui était celle d'une société publique locale, avait un autre avantage, c'est d'abord, elle n'est pas soumise à la comptabilité publique, et d'autre part, elle permet une adaptation de la gouvernance au sein de la structure, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus proche d'un fonctionnement d'une entreprise avec des actionnaires, et il est possible, dans le cadre d'une SPL, ce qui n'est pas possible dans le cadre d'un EPIC, de moduler, les pourcentages ou le nombre de sièges qui sont dévolus à une commune particulière. Je vais simplifier mon propos. Je ne voulais pas, en tant que maire de Carnac, que se reproduise la catastrophe qui s'est passée quand on a créé l'intercommunalité, à savoir qu'une commune comme Carnac, qui représente la plus grosse contribution fiscale de l'intercommunalité, se retrouve, parce qu'on a choisi de répartir le nombre de représentants dans l'intercommunalité à la population INSEE, 4500 habitants à Carnac, et non à la population DGF, qui représente le vrai poids économique de la commune. Je ne voulais pas qu'on se retrouve dans une truffe touristique où des stations classées qui représentent 80% de la taxe de séjour, plus de deux tiers des nuitées, se retrouvent dans un EPIC dans lequel, globalement, on aurait été minoritaire par rapport au poids économique que nous représentons. L'ensemble des élus de l'intercommunalité l'ont parfaitement compris et ont accepté assez rapidement que, dans le cadre d'une SPL, puisque l'unanimité s'est créée très très vite pour aller vers une SPL, et bien que les stations classées aient une représentation qui soit relative à leur poids économique et touristique. Et donc, ce qu'il a été négocié, quand je vous dis que ça a été l'objet de nombreuses négociations au cours de l'été, c'est que effectivement, et moi ça a été mon prérequis, j'ai demandé à ce que, et j'ai dit que Carnac rentrerait dans la structure intercommunale à condition que nous ayons une majorité des trois stations classées au sein du conseil d'administration de la SPL. Au départ, évidemment, cette requête n'a pas été forcément acceptée tout de suite. On a négocié au cours de l'été et finalement, on est tombé d'accord sur la répartition qui s'affiche derrière vous, à savoir sur les 18 membres du conseil d'administration de la future SPL, qui donc sont composés de 17 élus, hein, soit représentants des communes, soit représentants de l'intercommunalité, et de un socioprofessionnel. Quand je vous disais tout à l'heure que le désavantage de la SPL, c'est la faible représentation des socioprofessionnels, mais qui peut être contourné par un autre dispositif que je vous décrirai tout à l'heure. Et donc, vous constaterez que parmi les 18 représentants au conseil d'administration de la SPL, eh bien, il y a en tout et pour tout 9 membres issus des stations classées, puisque le conseil communautaire désignera, je prends l'exemple de Carnac, qui nous intéresse un peu plus que celui des autres communes, 2 conseillers communautaires de Carnac sont désignés au conseil d'administration de la SPL, donc mécaniquement, Madame Monique Thomas, Monsieur Olivier Lepic, les deux représentants, et le conseil municipal de Carnac, par ailleurs, désignera 2 représentants également au sein de la SPL, ce qui portera le nombre de représentants de la commune à 4 sur 18, Et si on y ajoute Quiberon, qui est dans le même dispositif, c'est-à-dire 4 représentants au sein de la SPL, 8 plus la Trinité-sur-Mer 1, ce qui fait donc 9 représentants des stations classées au sein du conseil d'administration de la SPL, ce qui représente 50%. Je pense que, encore une fois, ça n'a pas été facile, parce que vous voyez bien que d'autres communes ne seront pas représentées. C'est toujours, quel que soit le poids économique ou le poids touristique d'une commune, et il y en a qui ont effectivement dans la Terre des Terres un poids touristique moins important, mais évidemment, c'est toujours difficile de faire comprendre à un maire qu'il ne sera pas forcément représenté au conseil d'administration d'une SPL. Le choix qui a été celui de la commune, encore une fois, c'est quelquefois dans la vie, il faut faire des choix. C'est pas toujours le meilleur choix qu'on peut faire. Il y a, encore une fois, moi, je regrette la façon dont le législateur a accéléré le calendrier. Je pense qu'on aurait pu travailler un peu plus longtemps sur ce dossier, mais on est contraint, puisque effectivement, il fallait que le conseil municipal de Carnac délibère avant la fin de ce mois sur sa compétence. Donc, comme on a accepté de passer dans l'intercommunalité, le conseil municipal de Carnac n'a pas à délibérer s'il veut garder sa compétence, donc elle va basculer de manière automatique à l'intercommunalité. Mais donc, aujourd'hui, on avait un choix qui était celui de rester autonome, mais de manière, je dirais, très relative, et en fait qui était une fausse autonomie. On avait également le choix d'attendre la modification de la loi, puisque vous le savez sans doute, mais une modification de la loi est en cours en ce moment, mais on ne sait pas quand elle sera votée, sous la pression des stations de montagne, pour permettre aux stations classées de rester, pour le coup, totalement indépendantes. Mais ça veut dire qu'on aurait pris un risque gigantesque, parce que on aurait délibéré à ce conseil municipal, par exemple, pour garder notre compétence, sans savoir à quelle sauce nous allions être mangés dans quelques mois. Et donc le risque pour la commune, c'est celui que j'ai pris en compte, c'est que rester à l'écart d'une structure, d'une SPL intercommunale qui se serait créée, dont les membres du conseil d'administration auraient été répartis, et qui, dans laquelle nous aurions été peut-être par la loi obligés de rentrer d'ici 3 ou 4 ans, vous imaginez bien la situation, on n'aurait absolument pas pu négocier ce qu'on a négocié aujourd'hui, à savoir cette majorité des stations classées. Le risque eût été qu'effectivement dans 2 ou 3 ans, la législation change, et le sens de l'histoire, c'est évidemment la mutualisation des compétences. Donc ma crainte, c'était de dire que, de penser que, eh bien, dans 3 ou 4 ans, on serait resté autonome, autonomie très relative, mais que le législateur nous impose de rentrer dans la structure intercommunale. Et là, je peux vous dire qu'aller négocier avec les maires en disant bah, « Auray, vous avez 2 représentants, il faut que vous sortiez », c'était une autre affaire. Et on ne se serait sûrement pas retrouvé dans une situation où on aurait pu obtenir cette majorité, cette minorité de blocage, si vous préférez, ou cette majorité au sein du conseil intercommunal. Donc, je crois que ce dossier, il a été mené dans la concertation. Il a été présenté en bureau des maires du conseil communautaire il y a 2 semaines. Il a été accepté à l'unanimité par l'ensemble des maires de l'intercommunalité, qui ont remercié d'ailleurs Quiberon, Carnac et la Trinité. Il faut savoir que voilà, le savoir-faire en matière de sourisme, il est bien évidemment un petit peu et beaucoup dans nos communes. Donc je pense que c'est un schéma qui préserve l'avenir stratégique du territoire. Ceci dit, on a une immense tâche devant nous, parce que organiser, structurer l'organisation touristique du territoire, ça va être un travail gigantesque. Il va falloir faire fusionner les offices, il va falloir sans doute en fusionner, en supprimer quelques-uns, en transformer des offices du tourisme en points d'information. Je vous rappelle que la législation, si l'office intercommunal veut rester classé en première catégorie, impose un certain nombre de dispositions, et notamment d'avoir des offices qui soient à la hauteur du cahier des charges du classement. Vous imaginez bien qu'on ne va pas mettre à niveau tous les offices de l'intercommunalité, il va falloir faire des choix. Et donc il y a un énorme travail à faire qui est devant nous, et je pense que ce travail, il est plus intéressant de le faire en commun avec les autres communes. Vous savez que sur d'autres dossiers, on a pris une position inverse, hein, notamment sur l'urbanisme, où on a préféré garder la compétence quand on le pouvait, parce qu'on estimait qu'on pouvait l'exercer au plus proche des concitoyens et à un coût inférieur. Là, je dois vous dire que voilà, la question était vraiment compliqué. Il y a eu beaucoup d'interactions avec les maires. Bernard Hilliette, qui est le vice-président en charge de ces questions à ACTA, qui est aussi maire de Quiberon, a mené le dossier tout au long de l'été, dans un calendrier extrêmement contraint, encore une fois. Hein, c'est vraiment ce que je reproche aux législateurs, c'est de nous imposer d'aller aussi vite sur des questions structurelles. Néanmoins, la solution la moins mauvaise, et en tout cas, elle augure une concertation, une collaboration intéressante au sein de l'intercommunalité. Je vais peut-être laisser Armelle dire quelques mots, parce que c'est elle aussi qui a beaucoup travaillé, notamment dans l'interface avec les sociopros. Mais je pense que voilà, il faut aller de l'avant. L'intercommunalité existe, et donc rester à l'écart, surtout dans un domaine aussi stratégique, nous aurait sans doute contraints à revenir une main devant, une main derrière dans quelques années. C'était beaucoup trop dangereux pour la commune.
Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que voilà, le travail est devant nous, que c'est un beau challenge, un beau projet pour un beau territoire. Donc, je pense que voilà, les élus qui seront autour de la table, les offices de tourisme, le personnel des offices de tourisme sont volontaires pour travailler. Et puis, l'action est en route. Hein. Dès la semaine prochaine, on a un certain nombre de... Enfin, pas la semaine prochaine, la semaine suivante, on a un certain nombre de réunions et d'ateliers qui sont programmés. Donc, tout est à faire. Comme le disait Olivier, c'est un chantier gigantesque qui va être au départ un chantier organisationnel, juridique, social. Et puis surtout, ben, il va falloir qu'on définisse un projet pour ce beau territoire. Donc, on n'a plus qu'à se relever les manches et à travailler tous ensemble. Voilà.
Oui, alors, cette présentation vous sera, pour ceux qui le souhaitent d'ailleurs, hein, vous sera distribuée. C'est une présentation KPMG. Elle l'a déjà été aux membres du CODIR de l'Office du tourisme de Carnac.
Non, je ne vous l'ai pas envoyé hier soir. Je l'ai reçu hier, je vous l'ai dit. Hein, et il a été présenté donc au CODIR de l'Office de tourisme hier. Et donc, dans la journée, ça ira. On avait un conseil municipal aujourd'hui.
Pas de problème, Armel. Sauf que hier, Mme Moreau, vous nous avez dit que vous nous l'expédiez hier soir. C'était juste une remarque.
Oui. Moi, excusez-moi d'avoir...
Excellente remarque. On l'a reçu en fin de matinée hier.
Juste une question. J'ai vu Madame Bayard. Une assemblée spéciale.
Armel, c'est une question technique.
Donc, l'assemblée spéciale, c'est l'assemblée qui regroupe les autres communes en dehors des représentants par commune que l'on voit dans la liste des représentants au sein du conseil d'administration. Il y a 24 communes au sein de la communauté de communes. Donc, comme vous le voyez, il y a Carnac, Quiberon, la Trinité, Saint-Pierre, mais il n'y a pas toutes les communes. Donc, cette assemblée spéciale, c'est une assemblée qui va regrouper un représentant pour le reste des communes. Voilà.
Alors, en fait, c'est une société, c'est une SPL. Il faut que, pour avoir une voix délibérative, il faut que l'ensemble des représentants du conseil d'administration soient actionnaires de la structure. Comme vous l'avez remarqué, il y a 18 administrateurs, c'est-à-dire qu'il y en a moins que de communes représentées dans ACTA. Donc, le moyen pour que les communes qui n'ont pas un membre élu au sein du conseil d'administration soient représentées, c'est-à-dire toutes les communes qui n'auront pas d'élu direct, eh bien, elles forment un véhicule spécial qui va être actionnaire de la SPL et qui va permettre à ces communes qui ne sont pas représentées de désigner en leur sein un représentant élu qui siégera au conseil d'administration de la SPL et qui permettra donc d'exprimer la voix des communes qui n'ont pas un siège au conseil d'administration puisqu'il n'y a que 18 sièges. Est-ce que c'est clair ?
Comment se répartit la gouvernance entre chaque assemblée ?
C'est un membre, une voix. C'est aussi clair que ça. Non,
d'accord, mais on a plusieurs assemblées. Une assemblée, un comité stratégique.
Non, en fait, ce sont les actionnaires, en fait. Les quatre structures que vous voyez là, le sociopro, l'assemblée spéciale, les quatre sièges des communes classées et 12 sièges de la commune communautaire, ce sont les actionnaires de la structure. C'est-à-dire que pour avoir un représentant, il faut être actionnaire. La gouvernance, elle est très simple, c'est chaque membre désigné par l'actionnaire a une voix au sein du conseil d'administration de la SPL. C'est-à-dire que le véhicule spécial, par exemple l'Assemblée spéciale, ne se réunit pas en tant que tel au sein du conseil d'administration de la SPL. L'Assemblée spéciale actionnaire de la SPL désigne un représentant au conseil d'administration de la SPL. Est-ce que c'est clair ?
Alors, le conseil d'administration est formé par qui ?
Par les 18 administrateurs,
voilà, qui sont les 12 désignés par la communauté de communes, les 4...
Par
chaque commune des stations classées, un par l'Assemblée spéciale qui réunit les communes non représentées au sein du conseil d'administration et un socio-professionnel, tous avec une voix délibérative. C'est une bonne usine à gaz, hein, je le sais, mais c'est comme ça que
donc
ça marche.
Pour le socio-professionnel, c'est un comité stratégique qui est créé, qui va être composé donc d'un certain nombre de socio-professionnels. Il y a des réunions qui vont être programmées là prochainement. Pour l'instant, il n'est pas constitué, le comité stratégique. Donc, la méthodologie, c'est de réunir les socio-professionnels qui sont membres des conseils d'administration ou comités de direction des offices de tourisme. et de réfléchir déjà avec eux de la manière dont on pourrait justement constituer ce comité stratégique. Le socioprofessionnel du territoire sera un socioprofessionnel qui représentera le comité stratégique. C'est déjà la constitution de ce comité stratégique qui est un premier pas. Et ensuite, ce comité stratégique va désigner son représentant.
Alors, je vous le disais, le désavantage de la SPL, en dehors de la souplesse qu'elle offre, je dirais, à l'équilibre des forces ou la balance au sein du conseil d'administration, c'est que structurellement, il ne permet pas une représentation, je dirais, avec voix délibérante aussi satisfaisante que dans un EPIC. Néanmoins, et encore une fois, je ne sais pas qui sera le futur président de cette SPL, puisque le président est élu par le conseil d'administration de la SPL, et comme dans toute structure, c'est la gouvernance et la volonté du président d'écouter, d'entendre, d'associer les décisions du conseil d'administration et d'associer les profs et les socioprofessionnels aux décisions du conseil d'administration qui sera absolument essentielle dans cette nouvelle structure. Et moi, je souhaite bien évidemment que le futur président écoute et soit très proche des socioprofessionnels, parce que ce n'est pas parce que les socioprofessionnels n'auront qu'une voix délibérante au sein du conseil d'administration de la SPL que ce comité stratégique qui réunira une vingtaine ou peut-être même un peu plus de socioprofessionnels qui sont désignés au sein de leur profession ne doit pas être absolument écouté et écouté de manière très attentive. Monsieur Daripa.
ACTA, donc Bernard Hillier est vice-président au tourisme. Et on peut se retrouver dans le cas où on a un président de la société qui soit différent du vice-président d'ACTA.
Tout à fait, puisque le conseil d'administration de la SPL est souverain. Donc,
comme vous dites, comme usine à gaz, c'est pas mal, oui. Ouais.
Ben on est en France. Hein. c'est effectivement, mais dans le cadre de l'EPIC, c'est pareil. Hein. Donc effectivement, à partir du moment où on a une structure juridique autonome qui a une existence juridique de plein droit, elle élit son conseil d'administration, élit son président. Et donc, effectivement, parmi les 18 administrateurs, je pense que la première réunion, il va y avoir qui est candidat, quelqu'un va lever la main, il peut y avoir plus de deux candidats. Le candidat naturel, c'est bien évidemment Bernard Hillier, ça c'est clair.
Justement, par rapport à ça, quand vous nous dites que vous avez fait ce choix, c'était politiquement et stratégiquement le meilleur choix, puisque vous avez réussi, c'est vrai, quand on fait les comptes, à avoir ou pouvoir avoir une minorité ou une majorité de blocage. C'est bien ce que vous avez dit.
Non, il a dit le moins mauvais.
Oui, je. Bah, oui, mais je pose la question par rapport à défendre le sujet. Par contre, si M. Hillier devient président de cette SPL, on peut penser que, comme vous venez de le dire, il sera obligé d'écouter et d'entendre, en fait, toutes les propositions du conseil d'administration. Donc, finalement, il y a des votes qui ne seront pas ceux que vous souhaiteriez, vous, M. Lepic. Donc, vous n'aurez pas forcément toujours cette majorité de blocage, en tout cas. M. Hillier sera obligé de se conformer au groupe et ce n'est pas parce qu'il est station classée qu'il votera comme vous.
Madame Le Golvan, qui a prétendu le contraire ? On n'est pas là. Enfin, on est là pour travailler sur une structure d'organisation du territoire qui n'est pas liée à des personnes. Elle a vocation à exister pendant 20 ou 30 ans. Là, on est dans une répartition. Bien évidemment que le maire de la Trinité peut avoir un avis différent du maire de Carnac. Quand je présente ça, je n'ai pas dit que c'est moi qui déciderai de tout. Je suis un administrateur parmi 18 autres. Et encore une fois, vous ne m'avez pas écouté, ce qui était important, c'est que les stations classées qui représentent 80% de l'économie touristique de la commune soient suffisamment représentées pour peser de manière importante dans le processus de décision. J'imagine que le maire de Quiberon et le maire de la Trinité-sur-Mer, qui sont également des stations classées, ont des préoccupations qui sont assez semblables de celles de Carnac. Je ne serai pas toujours le maire de Carnac. Monsieur Hillier ne sera pas toujours le maire de la Trinité-sur-Mer. Il y aura d'autres élus. Simplement, de Quiberon, pardon. Simplement, ce qu'il fallait, c'est trouver une solution qui soit acceptable pour les stations classées, c'est-à-dire que notre poids soit suffisamment représenté, mais également que les autres communes, parce que enfin, je veux dire, c'est ACTA qui décide. Hein. Si ACTA nous avait dit les stations, vous êtes gentils, mais c'est 30% des voix, c'était 30% des voix. Donc, moi, je n'ai pas exigé qu'on ait 80% des voix. Ça n'aurait jamais été accepté par les autres élus. Simplement, ce qu'on a demandé, c'était une demande unanime des stations classées, c'est que cette gouvernance soit équilibrée. et qu'elle respecte les petites communes, les communes non touristiques, mais également les communes touristiques. Donc effectivement, ça n'est pas un gage de pouvoir absolu des stations classées sur la structure. Ou alors, enfin, si vous avez une baguette magique, donnez-la moi. Mais moi, on devait quand même négocier avec une vingtaine de maires qui ont des préoccupations. Et je peux vous dire que certains, toujours aujourd'hui, ne sont pas ravis de ne pas figurer dans cette organisation. Donc moi, je n'ai jamais dit que Bernard Hillette voterait systématiquement. Je veux dire, après, l'Assemblée, elle va vivre, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Simplement, ce système, qui est encore une fois pas le meilleur, c'est peut-être le moins mauvais, a le mérite, contrairement à l'EPIC, où on se serait retrouvé 1 sur 12, pour le coup, là, on a le mérite de pouvoir peser, peut-être pas tout à fait au poids qu'on représente, mais de peser de manière importante. Donc c'était soit ça, soit effectivement une minorité, voire même une sous-représentation massive des stations classées. Madame Moreau.
Oui, au-delà de la représentation des stations classées au sein du conseil d'administration, je pense aussi qu'il faut bien regarder comment est composé ce conseil d'administration et quelles communes le constituent. Je pense qu'il faut raisonner aussi en termes de territoire touristique. Et aujourd'hui, on sait bien que sur les 24 communes d'ACTA, tout n'est pas du territoire touristique. Par contre, les communes et les conseillers qui vont être au sein de la SPL sont des communes de territoire touristique qui savent de quoi ils parlent. Donc je pense que voilà, il y a les stations classées, mais il ne faut pas oublier les autres. Et tel que les élus du conseil communautaire ont réfléchi la composition de la SPL, moi, je suis assez optimiste sur la façon dont on peut travailler ensemble. Il faut aller un petit peu plus loin. Je pense que si on est dans une réflexion sur un travail d'un territoire touristique élargi, avec la mise en place d'un plan d'action de promotion, d'un plan d'action d'accueil, d'un plan d'action d'animation, même si l'animation restera aux communes, il faut dépasser un petit peu ce raisonnement carnaco-carnacois. Voilà.
Monsieur Taripa.
Dans ce cadre-là et dans le cadre d'une mutualisation, que devient le personnel des deux offices de tourisme de Carnac ?
Alors, le personnel des deux offices de Carnac est il n'y a qu'un office à Carnac, effectivement, administrativement. Le personnel est transféré dans la SPL.
Et donc notre...
Le travail... Non, je voudrais répondre quand même, parce que concernant les ressources humaines, à partir du moment où il y a un office communautaire qui est créé, ça devient l'employeur de l'ensemble du personnel des offices de tourisme du territoire. Donc la réflexion d'organisation de les ressources humaines de ce territoire-là, c'est la SPL qui va travailler dessus. Donc aujourd'hui, ce n'est pas à nous de discuter de cela, ce n'est pas à nous de faire des préconisations. Ce travail-là, il va être engagé. Il y a des réunions prochaines avec justement d'abord une réunion collective de l'ensemble du personnel des offices de tourisme du territoire de ACTA. Ensuite, il y aura des entretiens individuels et après, il y aura des propositions qui seront faites. 2017, c'est une année charnière, c'est une année où rien ne va changer parce que de toute façon, on est dans un transfert de compétences où les choses vont rester, la structure reprend l'ensemble du personnel. Et puis après, il y aura des propositions pour les années à venir. Mais ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts et ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut répondre à ces questions.
Ça veut dire quand même que s'il y a un transfert de compétences, il y aura un transfert de personnel à un moment ou à un autre.
Ah bah, mécaniquement.
Dès le 1er janvier.
Mécaniquement.
Dès le 1er janvier.
Oui, tout à fait. Le portage administratif, à partir du moment où la compétence... La date à laquelle la compétence est transférée, le portage administratif est mécanique et immédiat.
Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il risque aussi d'y avoir un transfert géographique du personnel.
Armel, je suis incapable de vous répondre. Ça, c'est le travail de la SPL, et ce travail, il ne va pas être fait en 6 mois, d'organisation du territoire touristique. C'est-à-dire que, effectivement, les ressources humaines, ça va être un des chantiers de ce projet. En 2017, rien ne changera, mais à terme, il y aura sûrement des créations, des suppressions, des gens qui vont travailler ailleurs. La structure, elle va vivre, et c'est bien normal. Ce dossier n'est pas totalement clos. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à négocier et il fera l'objet donc d'un vote au Conseil communautaire du 30 septembre prochain. Pour ce qui concerne la taxe de séjour, je pense que vous avez eu le temps de lire. C'est vraiment un rapport purement administratif. Est-ce qu'il y a des votes contre ce rapport ?
Une remarque à faire.
quand on avait voté en 2014, la modification, c'était en quelle année? On avait 2015, la modification, c'est vrai qu'on avait épargné les campings et on avait déjà posé une question par rapport à ça. Les campings ne sont pas, je ne sais pas. On n'avait pas augmenté la taxe de séjour sur les campings.
Non, on n'a pas fait d'augmentation pour 2015 ni pour 2016, compte tenu justement de tout ce travail sur la nouvelle organisation touristique. Donc pour cette année 2016, on en a discuté en commission tourisme en juin, on a décidé de ne pas changer les tarifs de 2015.
D'accord. Par rapport à après, donc, qui est-ce qui décidera du niveau de taxe? C'est la SPL aussi dans ces cas-là?
Non, ça reste à la charge des collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, c'est toujours une taxe de séjour communale.
Oui.
Et puis, le travail sur la fiscalité, c'est un deuxième chantier qui sera ouvert par ACTA et les collectivités à partir de 2018, pas avant.
D'accord.
Alors, il se peut qu'à terme, mais ça, ce sera le choix de l'intercommunalité ou de la SPL, l'intercommunalité décide de créer une taxe de séjour intercommunale, par exemple. Mais c'est un dossier vraiment très, très complexe, parce que ça a des conséquences importantes sur les communes qui n'ont pas de taxe de séjour, ou une harmonisation provoquerait probablement des négociations relativement complexes à mener avec les communes. Donc, c'est pas un dossier qui va être ouvert très, très rapidement. Mais c'est un dossier qu'il faudra ouvrir. Hervé.
Les camping-cars, ils ne payent pas la taxe de séjour. Ils ne pourraient pas payer la taxe de séjour.
Les camping-cars payent la taxe de séjour uniquement s'ils sont dans des endroits dans lesquels on peut... mais normalement, ils la payent. Ouais. Mais le succès du camping-car est bien lié au fait qu'un grand nombre d'entre eux ne la payent pas. Ils prennent de l'eau au cimetière et ils vident leurs eaux usées un peu n'importe où. Alors, heureusement, il n'y a pas... Voilà, il y a plein de gens bien dans les camping-cars, mais voilà, c'est aussi un des attraits de ce mode de vacances, c'est que ça permet de s'exonérer d'un certain nombre de participations via la fiscalité.
Et quelles seront les attributions de la commission tourisme? Parce que le CODIR va disparaître, je suppose.
Madame Le Bagarre, à partir du moment où la compétence bascule à l'intercommunalité, il n'y a plus de compétence touristique à Carnac, il n'y a plus de commission tourisme, il n'y a éventuellement plus d'adjoint au tourisme, la compétence bascule totalement. Et donc ça, il faudra aussi l'organiser et travailler. C'est pas cette année qu'en 2017, à partir du moment où on a, et d'ailleurs on a posé la question à la préfecture, ils sont incapables de nous répondre aujourd'hui de la façon dont on va exercer cette compétence, parce qu'en 2017, ne nous faisons pas d'illusions, on aura besoin d'une compétences touristiques fortes au sein du conseil municipal de Carnac et éventuellement d'une adjointe qui reste adjointe au tourisme encore pendant une année si possible. Mais à terme, à partir du moment où la compétence bascule, et je ne sais pas quelle liberté nous laissera le législateur pour conserver pendant une période transitoire une semi-compétence touristique, mais normalement, 1er janvier, le conseil municipal n'a plus à délibérer sur la pure compétence tourisme. En revanche, les animations, ça peut rester dans les communes et donc on aura toujours à traiter, par exemple, des animations. Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ce rapport sur la taxe de séjour? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe aux questions orales. Le groupe Carnac Un Souffle Nouveau avait trois questions. Enfin, je n'en connais pas la nature puisque ce sont trois tirets, la première sur le PLU, une deuxième sur le dossier Super U, communication Stéphane Doriel, et une troisième sur les horodateurs. Monsieur de Ripa ?
Je vais commencer par le PLU. Pendant la commission urbanisme, on a constaté un certain nombre d'erreurs ou d'imprécisions dans le règlement du PLU. En particulier en concernant la hauteur limitée des bâtiments annexes et l'aspect des constructions qui, j'ouvre les guillemets, doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale d'ensemble, sachant que cette unité architecturale n'est à aucun moment définie. On a en plus plusieurs projets en cours qui intègrent en façade des bardages bois et en couverture des toitures zinc qui nous semblent peu compatibles avec leur environnement et qui sont pourtant réglementaires. Plusieurs terrains qui sont déclarés inconstructibles dans le PLU, contre l'avis de la commission d'enquête, ou sur des bases litigieuses, peuvent donner lieu à des recours. De plus, les communs de village, qui constituent une part non négligeable du territoire de la commune, et pour certains d'entre eux, une part de son patrimoine vernaculaire, ne sont pas répertoriés dans le PLU. Et ce point a été souligné lors de la dernière réunion AVAP. Pour toutes ces raisons, nous demandons à ce que nous procédions à une révision assez rapide de ce PLU.
Et immédiatement vous répondre et accéder à votre demande, puisque effectivement une procédure de révision va être entamée assez rapidement, mais pas dans des délais. Mais pas dans des délais extrêmement rapides. D'abord, le PLU, c'est un travail qui est remis sur l'ouvrage en permanence. Personne ne prétend que ce PLU est parfait. Je vous rappelle que la commune a quand même mis des années avant d'obtenir ce PLU et de le mettre en fonction, et je m'en félicite. Après, effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a encore un certain nombre de choses qui peuvent être améliorées. On va être obligé de faire un certain nombre de modifications pour l'adapter déjà au PPRL, et je sais que Jean-Luc, mais je vais le laisser répondre, et Paul et Michel travaillent déjà à un certain nombre de points qui seraient intéressants de modifier ou d'amender, voire de préciser. Entre-temps, ce document qui n'est pas parfait, il faut le faire vivre, mais il y a toujours eu, je dirais, y compris dans le POS, des domaines dans lesquels il y avait une marge d'interprétation qui est celle des élus. Je me souviens des débats sur les toits terrasses dans le poste précédent. Encore une fois, moi j'ai été saisi d'un dossier à propos justement de zinc, puisqu'on en parlait de la commission d'urbanisme. Hein. Je crois que je ne reviens jamais sur les décisions de la commission d'urbanisme. Je l'ai fait une fois depuis le début de la mandature. Et là, je me pose la question de savoir si je ne vais pas signer ce permis, en fait, parce que à partir du moment, et c'est peut-être une erreur de l'avoir mis dans le règlement, mais à partir du moment où c'est légal et ça figure dans le règlement, je ne vois pas comment, sous des raisons esthétiques, j'ai même pas encore eu l'occasion d'en parler avec Michel Durand d'ailleurs, qui découvre ma remarque, je ne vois pas comment moi-même je peux refuser. Mais il faut que je rentre dans le dossier, que quelqu'un construise quelque chose qui est tout à fait en règle avec le règlement. Donc tant qu'on n'aura pas modifié le règlement, et c'est une question ouverte, moi je n'ai pas d'avis sur le zinc, j'ai vu des choses très jolies en zinc, j'ai vu des choses qui ne l'étaient pas, effectivement, mais vous le savez comme moi, et c'est pour ça que c'est intéressant d'être à la commission urbaniste, c'est qu'il y a aussi une dimension de parti pris, une dimension esthétique parfois qui peut être assez subjective, mais c'est aussi ce qui rend intéressant le travail de la commission urbaniste, c'est de défendre une conviction architecturale, une conviction urbanistique. Si le règlement était suffisamment précis pour que il n'y ait aucune question, on n'aurait probablement pas de commission urbanisme. Donc ce document, il n'est effectivement pas parfait, moi j'en ai bien conscience, je pense qu'on en a tous conscience, qu'il faut l'améliorer. Maintenant, on va réfléchir avant de se précipiter. Quoi, voilà. Donc Jean-Luc, je vais te laisser peut-être conclure.
Oui, juste pour compléter, à savoir que le service urbanisme, en particulier Sylvie Lebaille, recense tous les points qui sont sujets à questionnement, à problème, et elle recense ces points, j'allais dire, depuis avant même le vote du PLU lors du dernier conseil municipal. Dans la phase où on commençait éventuellement à apercevoir des points divers qu'on vient d'évoquer, alors qu'on ne pouvait plus agir sur le document dans son cheminement administratif. Donc ça c'est fait, et on est d'ores et déjà en train de voir les modalités pour au moins une procédure déjà de modification sur un certain nombre de points. C'est une procédure plus légère et qui permet de régler déjà une partie des problèmes. Donc ça, c'est tout à fait dans les tuyaux. Et j'ajouterais, pour terminer, que effectivement, et comme le rappelait à très juste titre le maire, le PLU n'est pas un document parfait. On en a pleinement conscience. C'est pas la première fois que je le dis. Simplement, entre les points qu'on détecte, je dirais déjà dans la fin de l'instruction du dossier, et surtout dans les premiers mois ou la première année, par des cas concrets de traitement de demande de permis ou de déclaration préalable, c'est ça qui met en exergue, qui met en évidence des choses qu'on aura beau eu lire ou relire le document ou le règlement écrit, c'est bien l'application au cas concret qui révèle dans un certain nombre de cas la problématique d'adaptation. Tiens, là, il y a telle ou telle phrase en trop, ça manque, etc. Donc tout ça, c'est dans la démarche tout à fait normale de vie d'un document de ce type-là.
Monsieur Deripin.
Dans le cadre de cette démarche, justement, donc vous dites que vous travaillez sur ces modifications. Est-ce que puis-je participer à ce groupe de travail ?
Alors, il y a un groupe de travail qui est interne à la mairie. Qu'on puisse vous associer indirectement à ce travail, pourquoi pas, hein. Mais pas tout de suite. quand on aura terminé, je dirais, voilà, ce travail d'inventaire.
Quand il faudra voter.
Comment ?
Quand il faudra voter.
Non, 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 avant. Je vous rappelle que vous êtes représenté dans toutes les commissions dans lesquelles vous devez être légalement représenté, ce qui n'était pas le cas de la municipalité précédente, je le rappelle.
On va pas recommencer sur le sujet parce que je pense que ça n'a pas un gros intérêt. On pourrait en discuter. Mais non, mais j'ai quelques idées sur la question et je tiens à en faire part. Et donc je propose ma collaboration.
Eh bien, écoutez, monsieur De Ripper, je pense que vous êtes membre de la commission d'urbanisme. Oui, et dans le cadre de cette commission, vous pouvez être amené de manière tout à fait légitime à faire toutes les propositions que vous estimerez nécessaires. Vous êtes également membre de la commission CLAVAP, qui ne concerne pas directement le PLU, mais qui a des impacts indirects sur le règlement. Donc je pense que vous avez pas mal de tribunes dans lesquelles vous pouvez vous exprimer sur ces questions. Hein. Enfin, si vous vous sentez brimé... je pense que n'hésitez pas à le faire.
Je vous propose ma collaboration, c'est pas la même chose.
Oui, on va y réfléchir. Madame Moreau.
Oui, juste une question sur les délais de cette révision, pour avoir une idée.
Pour l'instant, on ne part pas sur une révision. On étudie les deux axes, modification ou révision. Mais modification, on démarrerait la modification au début de l'année, puisqu'il nous faut quand même un délai pour continuer à recenser les divers points, et ensuite on est sur un délai sur 2017, en gros entre début de la procédure, premier trimestre 2017, si on lance effectivement la modification pour un aboutissement fin 2017, en gros. Quoi. Voilà. Une révision est beaucoup plus longue comme procédure.
Modification, ce que je comprends pas trop, c'est juste sur le règlement, quoi.
Oui, on n'est pas obligé.
C'est pas structurel.
Non, ça ne remet pas en cause l'équilibre d'ensemble du PLU. Donc on modifie ponctuellement sans impacter dans son ensemble. Type modification du nombre de logements en prévisionnel. Voilà, ce genre d'impact sur le PLU nécessite une procédure de révision. On repart sur enquête publique, etc. Donc ce qui explique un délai beaucoup plus long dans le traitement de ce type de procédure.
On passe à la question suivante. On va d'ailleurs les regrouper puisque M. Lerouzic a une question sur le même sujet. Dossier Super U, communication Stéphane Doriel. Et je laisserai ensuite M. Lerouzic poser sa question sur le même sujet.
Stéphane Doriel a adressé un dossier à tous les conseillers municipaux qui concerne le litige qui l'oppose à la commune sur le déménagement du Super U. Il y a trois actions en justice qui sont en cours. Un recours contre le sursis à statuer. Sursis à statuer qui porte sur le permis de construire, une assignation devant le tribunal administratif pour l'indemnisation des préjudices subis de mémoire, ça doit être aux alentours de 5 millions d'euros, et un recours contre le PLU et l'OAP sur les terrains de Montauban. Donc j'ai trois questions concernant le sursis à statuer, étant donné qu'il date du 1er février ou du 16 février 2015. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on statue avant le début de l'année prochaine, mais le sursis à statuer, il était lié à l'approbation du PLU. Donc le PLU, pour l'instant, étant approuvé, est-ce que vous avez l'intention de statuer rapidement sur ce permis de construire ? Deuxième question qui concerne la demande d'indemnisation à hauteur de 5 millions d'euros. Est-ce que vous pensez provisionner tout ou partie de cette somme ? Et concernant l'OAP, je rappelle le rapport de la commission d'enquête qui disait « Quid de l'intérêt de diviser le secteur en lots cessibles en l'absence de maîtrise foncière ?» C'est-à-dire, en gros, il disait que ça ne servait à rien, cette EAP. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à l'ensemble de ces questions ?
Monsieur Lerouzic.
Ça va être deux questions. Donc, il y a eu la première, c'est un peu la même. Nous voudrions connaître votre position et comment comptez-vous pour provisionner ce risque dans les fonds de la commune ? Ça, c'était une première question. Le préfet est-il au courant de cette procédure et quelles sont les chances de voir Stéphane Doriel débouter de son action ?
Pourquoi le préfet devrait être au courant de cette procédure ? Ah, vous posez une question et vous ne savez pas.
Je pense que quand même le... Si, bien sûr. Je pense que le sujet est assez important et je pense qu'il faudrait quand même mettre... puisque là...
C'est vous, Monsieur Lerouzic, qui pensez que le préfet doit être informé ou Monsieur Stéphane Doriel ?
Ah non, le préfet...
Non, mais c'est pas la question que je pose. C'est qui demande à ce que la municipalité informe le préfet de ce dossier? Monsieur Marc Lerouzic ou monsieur Stéphane Dorienne?
Non, on vous demande si vous l'avez informé.
Monsieur Lerouzic, je n'informe pas le préfet de tous les litiges de la commune. Sinon, le pauvre, je lui occuperai la moitié de la journée, ne serait-ce qu'avec les conflits d'urbanisme. Non, mais donc voilà pour la réponse pour la première question, voilà. Non?
Compte tenu de l'importance de la somme demandée, si la commune de Carnac perdait au tribunal, ça mettrait bien en difficulté les finances de la commune.
Ah bah la future maire de Carnac, Madame Le Golvan, ferait le chèque, puisqu'elle aspire à être la première édile. Et je vais vous faire remarquer une chose, c'est que je ne répondrai pas à toutes les questions, et pour une bonne et simple raison, c'est que je retrouve des pièces, comme je vous le disais lors du dernier conseil municipal, des pièces de conseillère municipale dans une procédure juridique, effectivement, qui a été menée, et elle est multifacette, puisque Monsieur Doriel attaque le sursis à statuer, le PADD, le PLU, et également demande des indemnités. Donc à partir du moment où il y a une procédure juridique en cours, je ne m'exprimerai plus devant le conseil municipal sur ces questions. Je vais néanmoins répondre aux questions techniques de Monsieur de Ripper, puisque pour le coup, elles sont légitimes. Pour ce qui concerne la demande d'indemnisation, je pense que Monsieur de Ripper a suffisamment d'expérience que dans le cadre de son entreprise. Il s'agit d'intimidation juridique. Voilà. Bon, après, chacun est libre de porter devant le tribunal les questions qu'il veut. Pour ce qui concerne le sursis à statuer, j'attends. Encore une fois, moi, je suis agnostique sur ce dossier. J'attends la réponse du tribunal administratif. Parce que si vous voulez qu'on préempte la décision du tribunal administratif et qu'on statue aujourd'hui, ça veut dire qu'on devrait statuer au regard du nouveau PLU et donc qu'on serait obligé de refuser le permis de construire. Vous en avez bien conscience. Donc je pense que pour le plaignant, et moi je me remettrai à la décision de la justice, il vaut mieux attendre le sursis à statuer. Parce que si on statue aujourd'hui, c'est niet au regard du PLU. Donc, Monsieur de Ripper, c'est moi, je réponds, après vous pourrez réagir si vous voulez. Pour ce qui concerne la provision, la législation est très très claire. Tant qu'il n'y a pas eu de première décision en justice, hein, on n'est pas dans le cadre d'une comptabilité privée où effectivement les auditeurs vous demandent de provisionner tous les risques. Dans le cadre de la comptabilité publique, la jurisprudence et les instructions sont très claires. Tant qu'il n'y a pas une première décision de justice, et compte tenu de la somme totalement fantaisiste réclamée par le plaignant, nous n'avons pas obligation juridique à provisionner. Pour ce qui concerne l'OAP, je ne ferai pas de commentaire.
Je reviens sur le permis à statuer, mais ça change quoi de statuer avant la date limite butoir du 16 février? Ça va changer quoi pour on refuse le permis, alors ça change quoi?
Ça change que quelqu'un, un plaignant a attaqué le sursis à statuer, et que donc avant de statuer, je ne vais pas faire travailler les employés municipaux pour instruire un permis qui, si d'aventure le plaignant gagne devant le tribunal administratif, devrait être inscrit non pas au regard du PLU, mais au regard du POS. Enfin, vous qui êtes
la décision de justice, elle va intervenir quand?
Je ne sais pas, en référé, normalement, ça c'est assez vite, mais bon, c'est pas moi qui ai porté plainte et c'est pas moi qui est responsable des délais à rester en justice en France. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je pense que le plaignant le savait. Alors, on passe.
Je n'ai pas de contact autre que le dossier que je viens de recevoir.
Vous n'avez pas de contact?
Non.
C'est tombé du sac de Madame Le Golvan, ça?
Je ne sais pas, adressez-vous à Mme Le Golvan. Bah, je vous dis que je n'ai pas de contact.
Mme Le Golvan, vous avez bien donné ça à M. Doriel?
Par mail, oui.
Voilà, très bien.
Mais après le conseil.
Merci. Non, mais
je
vous signale, Mme Le Golvan, tout à l'heure, quand je disais que la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. Ici, vous êtes conseillère municipale de Carnac. On a quelqu'un qui attaque la commune pour une somme, certes fantaisiste, qui est de 5 millions d'euros. Et vous, en tant que conseillère municipale, c'est-à-dire que c'est l'argent des Carnacois, en tant que conseillère municipale, et vous avez parfaitement le droit d'être pour le transfert du supérieur Montauban, c'est votre droit le plus absolu et jamais je me permettrai de le contester. En revanche, donner des pièces que vous avez en main en votre qualité de conseillère municipale pour aider un plaignant à soutirer l'argent des Carnacois, c'est une faute, Madame Le Golvan. Et je pense qu'elle vous poursuivra pendant longtemps, c'est une faute. Parce que vous devez défendre l'intérêt général et pas des intérêts particuliers. Dans ce dossier, comme dans d'autres, malheureusement, vous défendez souvent des intérêts particuliers. Et encore une fois, la somme des intérêts particuliers, ce n'est pas l'intérêt général.
Je défends l'intérêt général et ces documents sont accessibles à tous les Carnacois. Et M. Doriel, que ce soit moi qui le donne ou qui les trouve sur votre site internet, ça, c'est pareil.
Non, c'est pas pareil.
Vous faites un procès d'intention.
Pas du tout. Pas du moi, tout je pourrais pour le PPRL vous
dire
avez donné,
de la même chose vous avez que vous défendez cette... des intérêts particuliers.
Vous avez
on peut aller loin.
Vous avez donné cette pièce à Stéphane Doriel, personnellement, et vous venez de le reconnaître, et ce sera inscrit au compte rendu de ce conseil municipal. Au redacteur, Monsieur de Ripper.
Non, c'est moi qui pose la question. Il reste, je crois, une vingtaine de redacteurs. Et je voudrais savoir si l'extension du périmètre a déjà été prévue, a déjà été fixée. Est-ce que si le bourg sera concerné ou pas? Est-ce qu'il est prévu de revoir en concertation avec les riverains non seulement la période du stationnement, mais aussi la plage horaire? Parce que ces deux aspects ont été quand même fortement critiqués et je ne défends aucun intérêt particulier. Autant par les usagers, les
je le reconnais bien volontiers,
madame. Que les professionnels du secteur concerné. Il y a quand même eu pas mal de remarques,
oui,
aussi bien des propriétaires.
Tout à fait. Je vais vous répondre. Alors, non, rien n'est décidé pour l'instant. On a effectivement un nombre de rodateurs qui restent potentiellement utilisables, soit comme pièces remplaçantes sur le parc existant, soit ailleurs. On a eu une étude sur le stationnement qui a été commandée et délivrée l'année dernière. On va commencer à travailler sur le dossier effectivement du stationnement dans le bourg. Toutes les solutions sont ouvertes. Je ne peux pas vous dire qu'on va implanter aujourd'hui des horodateurs dans le bourg ou rester à la situation présente avec les zones bleues. Mais c'est une question qui est ouverte et qui sera amenée à être débattue dans les commissions et évidemment avec les professionnels. J'ai bien entendu, un certain nombre de remarques, de réflexions ou même de critiques sur les horodateurs qui ont été supplémentaires, qui ont été installés à la plage. Je les ai écoutés. Je me suis moi-même déplacé chez de nombreux commerçants pour discuter avec eux. Parfois, je me suis retrouvé devant plusieurs employés. Donc, ça fait partie, je dirais, du travail du maire. D'abord, on ne prend pas toujours des décisions qui font l'unanimité. Et c'est bien normal. On prend les décisions qu'on pense être les meilleures pour la commune. En l'occurrence, là, on l'a prise vraiment parce qu'on pensait qu'il y avait un vrai problème de stationnement ventouse. Je rappelle encore une fois que plus de quasiment 90% des places de stationnement à Carnac sont gratuites à l'année et le resteront. Donc on n'a pas vocation à étendre massivement le stationnement payant. Mais de manière ponctuelle et dans des zones dans lesquelles la réflexion est pertinente, et notamment pour favoriser le commerce, parce qu'on a encore des problèmes de voitures ventouses rue Saint-Cornélie, demandez à Jean-Luc, demandez à Pascal, parce qu'on les traite quasiment au quotidien. Parfois, c'est un ou deux personnes. Parfois même, ce sont des commerçants qui se garent devant leur heureusement, c'est très, très rare, mais ça arrive. Et on a aussi des particuliers qui laissent leur voiture trop longtemps dans des zones où le boulanger, il a besoin d'avoir une place devant chez lui ou à côté. Donc, cette réflexion, elle est ouverte. Aujourd'hui, rien n'est décidé. Et je pense que ce sera discuté dans les commissions qui seront amenées, notamment la commission aménagement, travaux, sur ces questions.
Oui, de manière à ce que j'ai posé la question, de manière à ce que on soit moins surpris que l'an dernier où c'est arrivé quand même à la grande surprise de beaucoup de personnes.
Non, on essaye toujours de s'améliorer. Je dis pas que ça a été fait géré parfaitement l'année dernière. En termes de communication, on n'a pas été très bon. Encore une fois, moi, j'ai aucun souci à reconnaître quand on fait pas les choses de manière optimum. Donc oui, on essaye toujours de s'améliorer. Et j'espère qu'on fera mieux les choses la prochaine fois. Alors, Monsieur Lerouzic, vous aviez encore trois questions. Question numéro 1, je vous laisse peut-être la lire.
Nous avons donc 4 circuits pédestres qui se sont arrêtés, 3 sont terminés. Le quatrième, par contre, le circuit numéro 4, pose quelques problèmes de sécurité. Et ça pose problème sur une partie du cheminement qui se trouve sur la D186, qui présente une forte dangerosité. Que comptez-vous faire concrètement pour assurer la sécurité optimale à cet endroit ?
Monsieur Lourdic, vous connaissez très bien la question puisque vous avez longtemps travaillé sur ces sujets. Vous savez que ce problème de dangerosité ne date pas d'aujourd'hui.
Il date depuis
très longtemps.
On commençait à avoir
une solution. Ouais, et vous avez tout à fait raison. Et cette solution que vous avez en tête, mais dont je ne parlerai pas, elle est toujours en cours puisque nous sommes toujours en discussion avec un propriétaire d'une parcelle évidemment dans cette zone qui nous permettrait de réduire ce danger. C'est en cours.
C'est bien la route de la Trinité. Hein?
Oui, tout à fait.
Très bien.
Autre question.
L'église Saint-Cornélie était également un bâtiment historique et quasiment unique en son genre en Bretagne, notamment par la présence de ses plafonds peints. Or, l'éclairage de ces plafonds est obsolète, voire dangereux. De nombreux touristes font remarquer qu'il est dommage de ne pas pouvoir les admirer. Dans le cadre de la rénovation du bourg, il nous semblerait intéressant de valoriser ce haut lieu de l'art roman qui pourrait être un lieu supplémentaire de fixation des visiteurs au centre-bourg. Cette situation est connue de vos services depuis quelques années. Il serait bien maintenant de passer à l'acte. Et puis également, je poserai la question sur, par l'intermédiaire de l'Office du tourisme, informer nos amis touristes de ne pas perturber la célébration des offices le dimanche matin et de demander à la police municipale d'intervenir sur le parvis de l'église qui devient un parking à moto. Et ça fait énormément de bruit pendant les cérémonies.
D'accord. Je retransmettrai ces demandes. Alors, petite précision, Monsieur Le Rosic, parce que là, il y a 4 siècles d'écart, Saint-Cornélis, ce n'est pas de la roman. C'est Renaissance, 1639. La roman, ça s'est arrêté en 1250. Ça fait 4 siècles d'écart. Enfin, bon, voilà, c'est un petit détail.
Entre les deux, quoi.
Hein. Ah non, oui. Non, il y a le gothique entre les deux.
Ah oui, bon, alors, c'est plutôt gothique.
Bref, c'est un petit détail. Mais comme j'aime bien Saint-Cornélis, comme vous le savez, je tenais à le relever. Alors, c'est en cours, cette rénovation de l'éclairage. En fait, nous sommes dans l'attente. Et il y a eu, enfin, vous n'êtes pas sans le savoir, notre responsable de la BF qui était en congé maternité, et donc ça a pris un peu de retard, mais on est en, puisque ça a été budgété, c'est inscrit au budget 2016 de la commune, et on attend, et d'ailleurs elle est revenue assez récemment de son congé maternité, on attend la réponse de l'architecte des bâtiments de France pour pouvoir mandater les artisans. Évidemment, on a besoin d'artisans spécialisés parce qu'on intervient sur un monument historique, et donc la BF a son mot à dire. On attend l'avis de la BF avant de procéder aux travaux, mais c'est budgété et c'est prévu.
D'accord. Bon, je vous remercie aussi pour le bruit, si vous pouvez intervenir, et la nuisance pendant les offices.
Alors, avant que vous lisiez, si vous voulez toujours lire cette question numéro 3, je vais juste vous faire lire simplement un petit arrêt du Conseil d'État du 15 juillet 1957 qui dit la chose suivante. Le maire doit veiller à ce que les discussions ne s'écartent pas des limites de la courtoisie. Si au cours d'une discussion, un conseiller municipal se rendait coupable de diffamation, d'injure, le maire devrait le rappeler à la modération et au besoin lui retirer la parole. Donc je vous laisse lire votre question, je vous laisse bien choisir les mots, en tout cas, que vous avez écrits, parce que je veux que le conseil municipal et la commune soient exonérés des éventuelles responsabilités que la citation des quelques mots que vous avez écrits pourrait vous valoir.
D'accord. Donc une émission de télévision Canal Bus a soi-disant piégé M. Jean-Baptiste...
Non, c'est Canal Bus.
Canal Bus, c'est j'ai dit. Hein.
Allez-y.
Je me suis mal exprimé, attendez, je vais mettre le...
Voilà.
A piégé M. Jean-Baptiste Goulard, directeur général de l'association Paysage des Mégalithes, dont vous êtes le président, affublé d'un déguisement. C'est paru dans la presse. Bon nombre ont pu le voir. Membre du comité de soutien du dossier du classement des menhirs auprès de l'UNESCO, qu'en pensez? Nous demandons fermement sa démission. Nous n'avons pas besoin d'une publicité de ce genre pour défendre ce dossier d'une importance capitale pour notre ville. À ce niveau de responsabilité, se prêter à une telle exhibition n'est pas digne de sa fonction, qui ne doit pas laisser beaucoup de temps libre, encore moins pour se laisser distraire par de pareilles bêtises.
Donc, merci, M. Le Rosic, d'avoir modifié votre texte. Alors,
il y avait un passage où c'était les textes de la presse. Hein.
M. Le Rosic, moi, on avait eu des débats sur le règlement intérieur, je me souviens, avec De Ripper. Je vous laisse totalement libre de vos paroles. Simplement, je pense que vous avez remarqué qu'un terme utilisé pouvait être susceptible de vous devoir une plainte en diffamation, et ça aurait été dommage de la prononcer, et c'est pour ça que j'en ai parlé avant. D'abord, ce n'est pas la bonne enceinte pour adresser ce genre de problème. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, cette question. Je pense que cette question, il faut que vous la posiez au président de Paysage de Mégalithes, mais pas au maire de Carnac, parce que moi, je n'ai pas... le maire de Carnac qui est en face de vous aujourd'hui n'a pas pouvoir de démissionner le directeur général de l'association, le président éventuellement, et je peux vous dire une chose, c'est que le président ne le fera pas, parce qu'effectivement, cette blague potache dans laquelle Jean-Baptiste s'est fait piéger, d'abord, elle est drôle, ça a fait pas rire tout le monde, mais bon, tout le monde n'a pas d'humour, et par ailleurs, je tiens à le dire, et là c'est le maire qui parle, pas le président de Paysage de Mégalithes, Jean-Baptiste Goulard fait un travail remarquable. Ce dossier qui était dans les limbes depuis des années avance. La semaine prochaine et la semaine suivante, le comité scientifique international va se réunir. Le texte de la déclaration de valeur universelle qu'on attend depuis 15 ans est prêt. Il va être validé par le comité scientifique la semaine prochaine. Et avant la fin de l'année, nous allons déposer cette déclaration de valeur universelle au ministère de la Culture, ce qui va nous valoir la réinscription sur la liste indicative. À partir du moment où nous sommes réinscrits sur la liste indicative, nous avons la possibilité, eh bien, à tout moment, et nous avons un dossier d'une qualité insigne, eh bien, de pouvoir prétendre à être présenté par la France au classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, je ne vais pas me tirer une balle dans le pied pour un déguisement de Korrigan qui, certes, voilà, après on peut en rire ou ne pas rire, mais je pense que vous avez beaucoup d'humour, monsieur Lerouzic, hein, on le sait. Donc, moi, je prends ça pour de la gaudriole. Le président de Paysages du Mégalithe a été interrogé par Ouest-France. J'ai dit que ça m'a fait beaucoup rire et j'ai dit à Jean-Baptiste d'être un peu plus prudent quand il accepte des demandes médias sur le site, parce qu'effectivement, j'ai vu le mail de Canal+, qui était un mail totalement officiel, dans lequel l'équipe de Canal+ se présentait comme une équipe de journalistes voulant promouvoir les mégalithes, et il s'est retrouvé face à l'équipe du petit journal de Canal+, effectivement, qui sont une bande de rigolos, un peu potaches, et Jean-Baptiste a jugé que plutôt que de se faire piéger, il fallait faire contre mauvaise fortune bon cœur, et il l'a fait. Je pense que cet été, dans les menhirs, il a dû recevoir à peu près entre 25 et 30 fois la presse. Je pense qu'on a une couverture médiatique qui est plutôt excellente. On a une relation au sein du comité scientifique qui est excellente. On a une relation au sein de l'Assemblée générale de Paysages de Mégalithes qui est excellente. Et moi, je me réjouis de voir ce dossier avancer. C'est toujours un petit peu compliqué. Il y a des archéologues autour de la table. Mais je crois que dans cette affaire, M. Lerouzic, il faudrait tous qu'on soit unis, parce que je dirais que l'intérêt général de la commune, c'est qu'on obtienne ce classement le plus vite possible.
Ça, c'est dommage, suivant les propos que vous tenez là, qu'on ne soit pas aussi informé. Nous n'avons pas d'informations sur l'avancée de ce dossier.
Ah ben, je le fais très régulièrement en conseil municipal, pourtant. Ah si, j'en ai parlé au moins, je sais pas, j'en ai parlé au moins 3-4 fois du dossier UNESCO et de la déclaration de valeur universelle et de sa date de dépôt. Donc, je pense que j'en ai parlé à nombreux conseils municipaux. Et là-dessus, en plus, j'ai aucune raison de ne pas être transparent, vu que le dossier se passe plutôt bien et que depuis 3 ans, c'est un dossier qui avance plutôt sereinement.
D'ailleurs, monsieur le maire, vous m'avez autorisé à voir les dossiers de subvention, et c'est ce dossier paysage des mégalithes à qui on a donné 20 000 euros que je veux consulter.
Ah ben, très bien.
D'accord.
Monsieur Lerouzic, il n'y a plus de questions.
Non.
On est d'accord ?
Tout est fini.
Bon week-end à tous, ce conseil municipal est clos, et à la prochaine fois.